Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah ouais.
Ah ouais. Ça c'est vrai.
C'est là qu'on en était dans l'émission.
T'étais à fond dans c'est la discussion là. T'étais là mais ouais, on va.
Je réfléchissais aux vœux de bonne année, aux gens à qui j'envoyais des messages et tout.
T'étais loin dans ta liste d'ex toi dans ta tête.
Pas mes ex.
Bonjour.
Hola. Hola.
Bonjour, bonsoir. Un départ un tout petit peu pétard mouillé.
Des miettes de nous.
Épisode, ah ouais. Car Mathis était en train de marmonner. J'ai envie de mourir parce qu'il a fait un geste un petit peu tendancieux pour nous montrer qu'il faut bien éloigner ou rapprocher notre micro de notre bouche. Donc
ça
faites ça avec un objet phallique. Éloignez-le et approchez-le de votre bouche plusieurs fois très vite. C'est ce que Mathis vient de nous faire juste avant le lancement. Merci Mathis pour ce moment de vie. Hello. Hello chère équipe, hello cher LM Cœur, cher LM Crado. Welcome dans ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. Je ne vous dis plus le numéro, donc j'ai officiellement
219.
Plus aucune idée. 219. Uh-huh. Incroyable.
Ça ne rajeunit pas. Hein.
Bah à chaque fois j'étais là, ça fait quand même beaucoup d'épisodes.
J'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on est au 219.
C'est très possible.
Et moi j'ai l'impression de rajeunir à chaque LM Cœur.
Oh.
N'est-ce qu'une impression ou est-ce un petit peu ton Benjamin Button intérieur né en 2002 qui se réveille?
Qui sait.
Je suis Mimi Hegel, animatrice de Laisse-moi kiffer. Je suis entourée d'une équipe délicieuse et formidable que vous connaissez bien et qu'on va apprendre à mieux connaître avec une question un petit peu nostalgie aujourd'hui, puisque j'ai eu envie de parler. Je vois Anthony qui est paniqué. Je vous ai donné la question hier, vous avez 24 heures, d'habitude vous avez 24 minutes.
Il y a 3 minutes.
On a, après, je l'ai transmise à Mathis. Quand oui. Est-ce que Mathis vous l'a transmise?
Ce matin.
Oui, ça, vous avez donc eu 8 heures pour y réfléchir. I don't know, mec, moi je travaille plus
c'est
là.
Ce matin.
Qu'importe, quelle est donc cette question.
Ma question est, parce que là on sort des fêtes, et souvent pendant les fêtes je trouve qu'on a l'occasion de refeuilleter des bouquins qu'on a laissés chez nos parents. Du coup j'ai voulu savoir quel livre d'enfance vous êtes, ou quel est le livre phare de votre enfance, si vous voulez plutôt me raconter ça. Anthony, tu veux qu'on commence pas par toi ou c'est
non,
pour
Non, c'est bon.
Incroyable. Généralement c'est une question dont on a vite la réponse quoi. On a oui. Un ou deux livres où on est là, c'est ça, ouais. Let's go.
Mais c'est marrant parce que quand tu viens de dire oui, c'est les livres qu'on relit quand on est chez nos parents, ça ne correspond pas du tout au livre que j'allais citer naturellement quand tu m'as dit c'est quoi le livre d'enfance.
Guerre et paix.
Moi j'étais sur la Bible.
Ah, ça aurait pu être la Bible, effectivement.
Ok, livre de chevet.
Vraiment livre de chevet. Mais
moi,
que
j'avais
je
la
consultais pas trop.
Aux enfants, mais... Et le Coran expliqué aux enfants et je les lisais avant de m'endormir parce que j'étais curieuse. Quoi.
Ouais, moi aussi j'avais la Bible expliquée aux enfants.
Moi, pas trop.
Et 3 chapelets offerts par mes deux grand-mères, mais qu'on oublie, dont une qui a oublié qu'elle m'en avait déjà offert un, du coup j'en ai 3.
Wow.
Et non, j'allais dire, celui que je lis naturellement chez mes parents quand je retourne chez mes parents, c'est Madame Bovary, que j'adore.
Waouh.
Mais tu lisais pas Madame Bovary à 7 ans?
Non.
Tout cultivé que tu es.
Non, bien sûr que non.
Manon était déjà passé à autre chose. Hein.
J'étais déjà sur Dostoïevski à 7 ans. Attendez.
Non, mais c'est marrant que tu dises ça, sans vouloir faire une parenthèse dans la parenthèse qui sera encore une parenthèse.
Il n'y a pas de souci. C'est un micro qui fait glisser là-dedans, n'hésite pas.
Mais justement, là, c'était les fêtes de fin d'année, mon père est venu et tout, machin. Et ça a donné lieu à plein de conversations dans la voiture, comme quand on était enfant. Enfin, ça m'a vraiment rajeuni. Je ne sais plus si j'ai raconté ça, mais que ma madame de Proust culinaire pendant les... Quand j'ai avec ma famille, c'est Pizzaut. Je sais plus si j'ai
oui,
dit ça.
On en a parlé dans le dernier épisode. Oui.
Et du coup, ça,
où est-ce qu'on en a parlé
un
au
demi
bar
flashback.
On va dire qu'on en a parlé dans l'épisode. C'est la même chose. Le bar n'est qu'une continuation de la soirée qui fait, mais
quelque
avec de la tease.
Mais en tout cas, à un moment, je sais plus de quoi on parlait avec ma famille. Et ils disaient, ouais, Anthony, tu pleurais pour aller à la bibliothèque et tout, je sais pas quoi. Je dis, oh, mais n'importe quoi. Ils m'ont dit, mais bien sûr que si, c'était n'importe quoi. T'avais un budget livre énorme et tout. Et tu voulais pas que ça compte dans ton argent de poche et tout. Bref, j'ai arnaqué mes parents, quoi. Ouais. Wow. Je dis, mais je devais vous revenir trop cher. Je pensais qu'on les empruntait. Elle m'a dit, mais bien sûr que non et tout. Ma mère était en train de régler ses comptes avec moi, mais l'enfant que j'étais. Ouais. Où elle pouvait pas me reprocher de lire trop.
Bah oui.
Du coup, elle achetait les livres et elle m'amenait à la bibliothèque toutes les semaines. Bref, j'étais un enfant très contraignant. Et du coup, très jeune, j'ai commencé à lire des livres, pas du tout pour les enfants, genre Maxime Chatham, je sais pas si vous voyez ce que c'est.
Ah ouais, c'est du polar.
Et ouais.
Mais
et
polar un peu. Dark, un peu dark, et tout, quoi.
Ouais, archi dark. Et j'ai un souvenir d'un livre qui m'avait relativement traumatisé, où vraiment pendant des semaines, je voyais encore cette vision horrible. Je sais plus ce que c'est exactement le titre du livre, Les Origines du Mal ou un truc comme ça, où il y a une meuf qui est en train d'être coursée par un mec en Central Park, et en fait, elle vient d'être scalpée.
Et horrible.
Et du coup, genre, vraiment, j'ai la scène en tête, et ça m'avait marqué, ça m'avait empêché de dormir pendant des semaines. Ouais. C'était pas du tout un livre pour les enfants, et j'avais à peine 10 ans.
Bah, j'ai commencé Stephen King à 9 ans, donc, je pense que ça, voilà, ça marque aussi. Mais, du coup, c'est tes parents qui t'ont acheté des livres pas de tournage, parce que...
Ils savaient pas. C'est moi qui disais, ouais, je vais lire ça.
Ouais,
tu
vois la coupe du Maxime Chatham, tu vois que c'est pas Tom Tom et Nana, quand même, le
aux origines du bal, avec un bandeau meilleur polar. Bah, mais le... tiens, Anthony.
Le pire, c'est que c'était une étoile sataniste, la couverture, tu vois.
Mais
moi, je savais pas
c'est
ce que
péché.
C'était.
C'est sur
je
les
ne
planètes.
Savais pas ce que c'était.
Mais qu'auraient dit tes deux grands-mères avec leurs trois chapelets, là, enfin.
Je ne sais pas. Peut-être que ça s'est annulé, d'ailleurs. Mais du coup, ça, c'était ma période quand j'avais 10 ans. Et avant, c'était un peu genre fantastique, genre Le Monde des Willan et tous ces trucs-là. J'aimais trop. Mais le livre que j'allais naturellement citer pour répondre directement à la question, c'est Rémise en famille, le premier livre qui m'a fait pleurer de ma vie.
J'ai jamais lu Rémise en famille, je croyais que c'était juste un dessin animé, que je regardais pas parce que je trouvais ça trop triste.
Parce qu'il a pas de famille.
Oui, voilà, moi aussi je trouvais ça archi triste.
Mais après, il a plein d'animaux, mais...
Oui. Et moi aussi, je pensais qu'il avait... que c'était que un dessin animé, et ma mère me l'avait offert un jour. Et du coup, j'ai découvert que c'était aussi un livre, et que le livre était bien, bien pire. Et d'ailleurs, du coup, j'ai dû checker l'auteur, parce que je réalise que je ne connaissais pas. Et donc, c'est un certain Hector Malou. Voilà.
Qu'on embrasse. Qui est là avec nous.
Je ne pense pas.
Derrière le rideau.
Le livre est sorti en 1878.
Il est bien conservé.
Et du coup, mais le livre, justement, ouais, il est chez ma mère. Et je me rappelle très bien de l'édition. C'est une édition bleue et tout. Et je me rappelle avoir pleuré ma race en le lisant à un moment. Et j'étais vraiment mais déchiré par le bouquin, quoi. Et je crois que j'avais genre...
Mais c'est quoi l'histoire, à part qu'il a pas de famille? Enfin, je connais pas du tout Rémi sans famille. J'ai aucun contexte.
Je me rappelle pas trop, mais il arrive plein de misères. Où en fait, il est à un moment recueilli par un type qui lui demande de faire des spectacles de rue avec un singe qui a un accordéon. Et du coup, il essaye de faire ça pour gagner sa croûte. Enfin, il mentit, en fait. Et je sais pas pourquoi ma mère et moi on était fascinés par Rémi sans famille et Princesse Sarah. Et du coup on regardait tout le temps ça ensemble.
Mais ah ouais, c'est la vibe de l'époque. Genre t'as une espèce de triade Rémi sans famille, Princesse Sarah et Les Malheurs de Sophie.
Ouais.
Qui sont que des trucs dramatiques. Genre tous les jours, t'as 4 ans, t'allumes ta télé, tu vois des gens avec des tresses se faire fouetter et tu chiales.
Exactement.
Et après tu vas genre prendre belle-mère, ton goûter, tu vois.
C'est exactement.
Pas normal d'avoir regardé ça avec le tombeau des Lucioles.
Mais les Malheurs de Sophie, ça me touchait moins parce qu'elle était quand même dans une famille pétée de thunes et du coup je me reconnaissais moins.
Ta conscience de classe était déjà en mode Sophie.
Mais c'était
un poids sur la tête
la famille,
à la fin de la journée. Ouais. Bon, on va pas se plaindre, tu vois.
Miss Kim
dans de la porcelaine
robe,
avec des couverts en argent. Moins, moins, les Malheurs de Sophie, ça va, quoi.
Ouais.
Alors que Rémi, il est dans la rue. Ok, il mendie pour gagner sa croûte.
Mais je pense que c'était. Rémi, c'était vraiment la street. Mais je pense que ma mère.
Rémi sans famille, c'était vraiment la street. J'ai déjà envie que ce soit le titre de cet épisode.
Mais je pense que ma mère avait des choix de programmation et de lecture orientés pour que je sois conscient de mes privilèges. C'est genre, regarde, t'aurais pu être Rémi sans famille ou Princesse Sarah, alors mange ton assiette.
Voilà. Je comprends.
Mais Princesse
Sarah
aussi, c'était une bourge, non?
Bah,
c'est
bourge,
mais ça, tu la prends à la toute fin.
Et dans le générique.
Ah non, en fait, tu la prends pas à toute fin. T'as raison. Attends.
Bah, c'est
sinon,
dans le titre,
spoilé,
cela dit.
Donc,
hein. Mais tout le temps,
c'est comme
calèches.
Les évadés, il y a un indice quand même.
Oui, c'est vrai. Je crois qu'on sait qu'elle vient d'une famille aisée et que son père. En fait, on apprend à toute fin que son père n'est pas mort. Mais depuis le départ, on sait qu'elle vient d'une famille riche. T'as raison.
Spoiler, Princesse Sarah. Désolée si vous ne l'aviez pas chez vous. On vous a gâché la fin. Ok.
Désolé. Vous regardez Rémi encore Midi les Zouzous.
Et autre livre, pas forcément de ton âge, mais globalement pas très jojo, parce que attends, Madame Bovary, Maxime Chatham, Rémi sans famille, gars, c'était pas un arc-en-ciel ton enfance.
J'ai eu une enfance assez mélancolique, oui.
Mais ça fait Anthony très poétique, donc ça marche bien. Aïda, c'est quoi ton livre d'enfance, ou quel livre d'enfance tu es?
Évidemment, Guerre et Paix, puisqu'Anthony ne l'a pas pris. Non, en vrai, moi aussi j'ai eu cette espèce de phase d'enfant où tu lis... beaucoup trop jeune, des choses qui sont beaucoup trop dark. Moi, c'était principalement des trucs qui étaient dans la bibliothèque de ma mère, dans laquelle je piochais tout le temps. Donc pareil, Stephen King, 8 ans, trauma, enfin...
J'ai lu L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, que ma mère, elle avait, parce qu'elle adore Robert Redford, et dans l'adaptation filmée, c'est Robert Redford. Et dedans, il y a une scène de fellation. Je l'ai lu, j'avais genre 9 ans, j'étais
avec
là...
Avec le cheval?
Non, pas avec le cheval, c'est une histoire d'amour avec une meuf...
J'en sais rien, moi
qui...
C'est rare les fellations.
Qui retrouve
dans les
l'amour
livres,
avec un beau rancher joué par Robert Redford. C'est rare les fellations dans les livres. Mais c'est hyper, c'est pas un livre très explicite. C'est quand même un livre pour ménagère de plus de 50 ans américaine, donc il y a un côté ouais. genre elle le prend dans sa bouche okay. ou un truc comme ça. Mais moi j'avais 9 ans, j'avais hâte que c'était possible et j'étais vraiment en mode. Quoi ah, oh, oh, hein. Et ça m'a. Je sais que c'est ce livre-là qui m'a appris que la fellation existe. Ce qui est probablement peu le but de l'autrice ou de l'auteur à la base. Anyway. Pardon, je t'ai coupé. Donc.
Peut-être que la personne serait ravie de savoir ça.
Ouais, je devrais peut-être lui envoyer un mail. Merci beaucoup pour votre œuvre et notamment pour m'avoir appris à 9 ans la fellation. Ça, c'est un mail, il est fiché S très très vite. Hein. C'est non à tout ce qui se passe.
Mais en parallèle de lectures un peu catastrophiques que je piquais dans la bibliothèque de ma mère, j'avais plein de séries de bouquins fantastiques. Du coup, j'ai trop de mal à en choisir une en particulier parce qu'en plus, j'étais vraiment le genre d'enfant qui relit 14 fois les mêmes trucs et après, ces livres, ils se dissolvent entre ses mains parce qu'elle
avait genre
trop quoi, touché,
quoi. Eragon,
ça, pas trop.
Narnia, c'était quoi ta génération?
Genre Artemis Fowl de ouf.
Ah, Artemis Fowl.
Yes.
Les Bretons là, qui font de la magie avec des runes, Guillermo.
Je les déteste.
Attends, comment ça s'appelle? C'était une trilogie avec des Bretons qui traînaient avec des
Korrigans
et ils avaient des trucs avec
les
de la magie, des runes.
Mais c'est Trio
Club des 5 ans, c'est ça? Non, je l'aurais pas, mais envoyez un DM
ouais,
à Aïda, je suis sûre qu'il y a
si
des gens
vous
qui
vous
vont
souvenez,
les voir.
Ça c'était super, La Croisée des Mondes et tout, pareil.
Oui, t'as eu les Chevaliers d'Émeraude?
Non, ça j'ai pas lu.
Oh, c'était ma passion.
Ça fait un peu Chevalier du Zodiac, cette Seiya.
Ouais, ou.
C'est Chevalier d'autre chose, quoi.
Ouais, mais tu vois, les chevaliers d'émeraude, dans ma tête, ils sont dans l'espace, quoi. C'est pas non, des bah, chevaliers du Moyen-Âge.
Ulysse 31.
C'était une espèce de terre où il y avait des chevaliers.
Top.
Beaucoup de terres précieuses. Parce que beaucoup de terres précieuses.
Ah, parce que du coup, c'est dans le nom, quoi.
Ah oui.
C'est vraiment le puits du fou.
Et chaque tome avait un nom de pierre précieuse. C'est fait, waouh, je connaissais pas l'opale et tout. Enfin,
waouh.
J'avais 8 ans.
Mais alors s'il y a un bouquin que je dois choisir qui est vraiment genre j'étais obsesse par ce livre et je pense que si je le retrouvais maintenant je suis encore obsesse, genre je le relirais 14 fois, c'était un bouquin français qui s'appelle La prophétie des magiciens, mais genre avec Sion, C-Y-A-N je crois à la fin, un truc comme
okay.
ça. Et en gros c'était un espèce de monde dans lequel t'avais des gens qui étaient entraînés pour faire de la magie, mais c'était que des mecs. Que les petits
toujours
mecs.
Comme d'habitude. Hein.
Exactement. Et du coup, t'as une meuf qui se travestit, qui se déguise en mec pour pouvoir aller à l'école des magiciens et tout, et faire des trucs. Bref, évidemment, il y a une prophétie, elle est super forte, c'est elle qui va sauver le monde, blablabla. Bla, bla. Et je sais pas, c'était trop bien, genre l'univers était trop intéressant, je me souviens que j'aimais trop la manière dont les choses étaient décrites et tout. Et fun fact, ça finit sur un espèce de cliffhanger, en tout cas dans mon souvenir. Il devait y avoir un 2 qui n'est jamais sorti. Du coup, moi, j'ai gardé ma haine en moi, en mode pourquoi le 2 n'existe pas et tout, toute mon enfance. Et 15 ans plus tard, sur Twitter, je follow une meuf qui est chercheuse en linguistique et tout, un truc comme ça, une meuf trop stylée. Et je suis là, putain, ces tweets, ils sont super et tout. Et je fasse sur son nom, et en fait, c'est Hélène Breda, l'autrice
oh
de ce bouquin, que ensuite j'ai retrouvé 1000 ans plus tard sur Twitter. Du coup, je lui ai tweeté, oh mon dieu, mais en fait, ça fait 10 ans que je te suis, t'as écrit mon livre préf par lequel j'étais obsesse dans l'enfance et tout.
Trop
j'ai
drôle.
Pas osé lui dire, sors le 2, parce que c'est, voilà.
Bah, dis-lui, fais-moi un petit oui transfert avec le 2, c'est sûr qu'elle l'a quelque part, tu vois.
Bah ouais, j'avoue. Mais en fait, peut-être qu'il est sorti et que je suis pas au courant, je sais pas. Mais oui, elle m'avait répondu à mon tweet en mode ah, trop mignon, trop contente et tout. Et voilà, c'était vraiment trop mon livre préf. Et d'ailleurs, je pense que je vais le racheter et le relire pour voir si
Let's
maintenant
go,
il est
tu
problématique.
Nous diras si c'est aussi bien.
Je pense qu'il restera aussi bien.
Tu feras le seul avis qui compte sur La prophétie des magiciens 20 ans après.
Grave, en invitant la meuf qui l'a écrit. Oui, maintenant vous êtes.
Roulé sur son livre. Écoute, j'ai relu, c'est vraiment de la merde par contre. Trop bien, merci Aïda. Mathis, quelle pièce de théâtre lisais-tu à 4 ans?
Non, j'ai été branché théâtre sur le tard. Moi, j'ai pas du tout été éduqué à ça en soi. J'ai vraiment découvert le théâtre avec fin lycée, mais mon livre d'enfance, je dirais que c'est Guerre et Paix.
J'en ai marre de ce running gag que vous aimez trop.
Non, j'ai beaucoup hésité parce que j'ai pensé à plein de trucs que j'avais lus. Et il y a plein de trucs où je me rappelle pas le titre, mais les livres m'avaient marqué. Je me souviens d'un livre qui s'appelait Lettres d'amour de 0 à 10, qui était vachement beau. Je me souviens en effet de tous les Pierre Bottero que j'avais dévoré. J'étais zinzin et.
J'étais hyper triste quand il est mort.
Ah, mais j'avais été démesurément affecté de savoir qu'il était mort alors que ça faisait déjà quelques années au moment où je lisais les livres. J'avais vraiment découvert en mode ah, mais c'est posthume tout ça.
C'est lui qui est l'auteur entre autres de Peggy Sue. Pierre Bottero? Non.
Ah, oh, c'était
non.
Super Peggy Sue.
Peggy Sue, c'était trop bien, ça faisait un peu peur.
Les mondes, les quêtes des Willan, tout ça. C'est
ah, oui.
Eliana,
oui.
Le bac des
marchombres,
tout ça. Et il est mort en moto en 2007, je crois. Si
mais il faut que je lise ces trucs. Tout le monde me dit que c'est vraiment super.
J'ai jamais lu non plus.
Mais du coup, mon livre d'enfance, pardon.
Mais ça vieillit bien apparemment, il y a plein de... c'est vraiment des gens adultes qui m'ont dit je les lis régulièrement, enfin c'est genre ce genre de bouquin comme les Pixar, tu vois, c'est tellement bien que ça marche à 7 ans, ça marche à 37 ans peut-être.
Et puis il avait des héroïnes féministes badass, enfin féminines badass et tout, c'était chouette.
Le petit ange parti trop tôt.
Et oui. Mais du coup, le livre que je citerai, qui est un livre que j'avais découvert en CM1, je me souviens, parce que c'était notre prof qui nous l'avait lu en cours, chaque, je crois qu'il y avait un quart d'heure en fin de journée, ou peut-être tous les vendredis, un truc comme ça, où elle nous lisait un bout du livre et on était tous impatients de ouf.
Oh, trop bien.
Et ça fait partie des profs qui m'ont vraiment donné goût à la lecture. Et c'était La Troisième Vengeance de Robert Poutifard de Jean-Claude Mourleva. Jean-Claude Mourleva, dont t'avais parlé.
Oui, bah, oui, oh my god.
T'en avais parlé sur La Rivière à l'envers.
Oui,
et obsession aussi ce livre.
Incroyable. Et La Troisième Vengeance de Robert Poutifard, je sais pas si vous voyez un peu l'idée du truc.
Pas du tout. Non, c'était... j'adore le titre.
Et bah, je sais pas si c'est le plus connu, mais je sais que moi c'est celui que j'ai le plus relu parce que c'était un bouquin qui me faisait mais pleurer de rire quand j'étais petit. Où en gros, c'est un prof qui est un gros con, qui est vraiment un vieil aigri. En plus, il est très très grand, il est dans une deux chevaux, donc c'est un espèce de personnage vraiment très caricatural comme ça, et il déteste ses enfants, il les déteste tous, et en fait chaque année il s'est pris des vacheries dans sa carrière, et au moment de sa retraite, le livre commence sur sa retraite, il est vraiment, ouais, c'est ça, tout le monde lui fait des grands hommages, et ouais, c'est ça. Il est en train de marmonner dans sa barbe, et en gros arrivé à sa retraite, il est en mode ok, je vais pouvoir le faire enfin, depuis le temps que j'attends ça, je vais me venger de mes élèves.
Yes.
Et du coup il concocte une série de vengeances par rapport à des trucs qui sont arrivés, donc on a des espèces de flashbacks de ce qui s'est passé, et des horreurs qu'on lui a fait. Et en effet, il y a des trucs qui sont vraiment horribles, tu vois. Et à chaque fois, il essaie de trouver un truc qui est vraiment tordu pour faire toute une intrigue et tout. Enfin, il y a un truc où il saque un chat 5 étoiles en lâchant un chien dedans. Enfin, il y a des trucs assez drôles et assez jubilatoires. Et bah, évidemment, il y a un twist dans le livre à un moment où ça se passe pas comme prévu, et c'est assez intéressant. Et du coup, voilà, j'avais adoré ce livre et ça m'avait fait découvrir, le français notamment. Ça m'avait fait découvrir bah, tout le reste de ce que Jean-Claude Mourleva a écrit.
Mais c'est vrai que j'ai pas creusé son œuvre après La Rivière à l'envers et aussi, Anna, qui est donc La Rivière à l'envers, mais vu du point de vue du personnage féminin.
Bah ça, c'est plus jeune adulte. Enfin, il a fait des trucs plus jeune adulte. Remarque, non, La Rivière à l'envers, c'est peut-être plus enfant.
C'est vraiment un conte.
C'est
Mimi,
hein.
Ouais, je pense qu'à partir de vraiment 7 ans, tu peux. T'as peut-être pas toutes les nuances, mais tu peux rentrer dedans et comprendre l'histoire, quoi.
Moi, il y avait Terrienne avec lequel j'avais grandi pour le coup de Jean-Claude Mourleva, où c'était vraiment un public un peu plus âgé déjà, et c'était assez sombre en vrai. C'était un espèce de monde parallèle. Enfin bref, ça va être très long.
Ok, on fera le Jean-Luc Mourleva cast. On l'invitera, ça sera super.
Ouf.
Anthony, t'as fait une tête quand on a parlé de théâtre
à 4 ans.
Oui.
Non, mais j'aimais beaucoup Racine.
Quoi?
Il a dit
Racine.
J'aimais beaucoup Racine.
Mais on se moque de qui? On est où là? À quel âge t'aimais beaucoup Racine?
Je hurle.
Non, mais j'étais au collège.
Bah, oui. C'est plus l'enfance. Ouais, on commence à avoir des points.
C'était ma question suivante. C'était pour vous, c'est quoi l'enfance? Enfin, ça s'arrête quand, pardon?
En gros, alors grande question.
C'est un peu une question océanique.
Mais pour moi, c'est le passage au collège, tu vois. En sixième, oui, t'es encore un enfant, mais t'essayes d'avoir, je pense, des loisirs.
Tu fais semblant de plus être un enfant.
Voilà. Genre, pour moi, le marqueur, c'est qu'en primaire, on jouait aux cartes Pokémon, et au collège, deux mois après, donc deux mois de vacances d'été, plus personne jouait aux cartes Pokémon. Parce que c'était un truc d'enfant. Et au collège, on traînait dans la cour.
Mais tu dis pas que tu joues
au
Playmobil des fois, chez toi, alors
que... Oui, c'était tu joues aux jeux vidéo ou tu papotes dans la cour parce que visiblement t'as plein de trucs à te raconter toute la journée avec des gens que tu vois toute la journée et qui ont rien dans leur vie à part aller au collège. Mais c'était très important.
C'est
très vrai. Et des gens qui font du foot, mais on jouait plus aux cartes Pokémon. Donc pour moi, tu vois, si c'est le bouquin que t'as découvert en quatrième, je suis là, t'es plus vraiment... tu fais un stage et tout, tu vois, t'es plus exactement un enfant, quoi.
Tu fais un ado.
Mais oui, tu fais un stage. T'es en entreprise, quoi.
Et puis le monde des adultes s'invite. Enfin, le monde des adultes s'invite dans ta vie. Enfin, moi, j'ai entendu parler de bail de sexualité en sixième. Attendais, quoi?
Alors que si t'avais lu L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, t'aurais déjà su que l'appellation existe.
En primaire, je fais un obsédé sexuel. Mais
c'est vrai?
Ah ouais, je faisais nimp.
Non, c'est pas le titre de cet épisode.
J'étais la Vierge Marie, moi.
Moi aussi, en vrai, extrêmement horny on main dès le.
Ouais,
mais j'ai l'impression que c'est plus courant chez les filles cisgenres. Parce qu'il y a cette idée de. Fonctionne, enfin, bon, bref, on en parlera dans un autre podcast, c'est pas le lieu, et je suis en train de me rendre compte que je suis en train de partir sur la pente glissante de la sexualité des enfants, dont je suis peu spécialiste, donc je ne vais pas y aller. Mon livre d'enfance perso, alors donc c'est pas La Rivière à l'envers parce que je vous en ai déjà parlé, même si c'est de Jean-Claude Mourleva, même si c'est un très beau livre à lire et à relire et à lire aux gens que vous aimez aussi, puisque je vous en avais parlé en racontant dans LMK il y a un moment que j'aime bien lire à voix haute des livres à mon mec parce que je suis un gros canard et que La Rivière à l'envers c'est un très bon livre à lire à voix haute. Et du coup j'ai choisi un autre livre d'enfance qui, je sais pas si Beaucoup de gens l'avaient et en même temps il est trop bien. On avait un diptyque de gros bouquins qui s'appelait 1000 ans de contes et 1000 ans de contes 2.
Ah ouais, j'aime.
Facile. Et c'était plein plein de petits contes et fables et tout, mais du monde entier. Et du coup, tu te retrouvais avec des trucs très La Fontaine, machin, avec des animaux qui font leur vie. Et à côté, t'allais avoir un conte hyper zen issu du bouddhisme, un conte chinois du 4e siècle. Où, du coup, c'est pas du tout la même structure narrative et la même morale. Et souvent à la fin, t'es un peu en mode. Quoi ? Genre, d'accord, c'est la fin. Il n'y a pas une morale aussi claire. Mais du coup, ça te montre, en tant qu'enfant aussi, ça te confronte à plein d'autres façons de voir la vie, de réfléchir, parce que les contes, c'est toujours des allégories, quoi, du monde, des allégories accessibles du monde qui nous entoure. Et 1000 ans de contes, ce qui était cool, c'est que déjà, il y en a vraiment plein, plein, plein dedans. Donc, il y a forcément un truc qui va vous plaire et c'est vraiment un livre que tu peux ouvrir n'importe quand, à n'importe quelle page, et tu vas tomber assez vite. C'est comme un bon recueil de nouvelles. Et j'aime bien les nouvelles, j'aime bien les textes courts. Je trouve que c'est plus dur à faire que des bons textes longs, des bons textes courts. Et c'était trop cool d'avoir des contes du monde entier. Et je pense que ça allait bien à la boulimique de bouquins que j'étais. Donc comme toi, Anthony. Alors moi, c'était la médiathèque. C'était ma deuxième maison. Et pour le coup, mes parents n'étaient pas trop saoulés avec ça. On achetait pas tant de livres, mais parce qu'on les bouffait hyper vite aussi. Donc c'était la médiathèque, ça y va, ça y va, ça y va. Et les cadeaux de Noël. Et pour une boulimique de livres, du coup, avoir deux gros livres avec dans chaque livre genre 200 histoires, c'est cadeau, c'est bonus, et ça se relit très très bien. Et puis c'est aussi un livre où, quand j'étais un peu plus petite, que mes parents peuvent me lire avant de dormir, quoi. C'est des contes, ça se lit bien à voix haute. Et quand je vais chez mes parents, je le refeuillette toujours avec plaisir, parce qu'ils l'ont toujours, car rappelons que mes parents ne jettent absolument rien et ne se débarrassent de rien. Ils l'ont toujours, et je me dis, peut-être dans un an ou deux, je pourrais lire un peu à mon neveu avant qu'il s'endorme, et ce sera mignon.
Oh, ce sera
voilà.
Trop mignon.
J'avais pas pensé avant, mais je suis là, hein, ce sera mignon. Voilà. C'était nos livres d'enfance. C'est l'heure de passer au commentaire. Anthony, est-ce que tu as un commentaire sur ta dernière prestation dans Laisse-moi kiffer ?
J'ai un commentaire, mais pas sur ma dernière prestation. Il est assez loin de moi, mais je sais que cette personne a demandé à plusieurs personnes notre avis. Bref, c'était pas clair. Je vais plutôt lire le commentaire, ça sera plus clair. Janto, qui a demandé avant Noël, je cite... Hey Anthony, merci pour tout ce que tu fais déjà, et j'ai envoyé un message boubou sur le compte de LMK, j'espère que vous le lirez. En gros, je vous demande si je devrais envoyer un message à mon crush
pour lui souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année ou laisser monter en mode avion comme me l'ont conseillé mes amis. Je suis mitigé, aidez-moi, merci.
Alors, ton crush est toxique?
Non, on a Mathis et moi, on sait toxiques. De quoi elle parle. On a entendu son message boubou, oui. Et Jeanne, écoute, on va pas le passer, parce qu'il est problématique ou quoi, mais parce que je pense qu'il est un peu trop personnel et que peut-être tu racontes des trucs que t'as. J'étais là, non, c'est un peu trop perso, donc c'est pas grave, on va pas le diffuser. Mais la situation, c'est que cette personne est traditionnellement plutôt attirée par un genre, et là, son crush est de l'autre genre. Du coup, ça remet quand même un peu en question, genre, est-ce que j'ai l'orientation sexuelle que je pensais avoir, parce que là, j'ai un crush sur quelqu'un qui est pas du genre qui me plaît d'habitude, d'où l'hésitation dont elle parlait dans son audio de, en plus, forcément, message boubou réveillon, donc pas très sobre, de, j'ai envie de lui envoyer un message, c'est mon crush, mais mes potes me disent, le fais pas quand t'es bourré, attends d'avoir des saoulés, ce qui est aussi plutôt un bon conseil. Mais oui, envoie un message de joyeuse fête à ton crush, et après, on verra ce qui se passe, tu vois, il n'y a pas de problème, mais a priori, la personne n'est pas toxique, donc ça va.
Ouais, puis joyeuse fête, tu prends peu de risques, en général.
Oui, voilà, c'était pas je veux lui déclarer ma flamme, c'était est-ce que je lui envoie un message de joyeux Noël, tu vois. Oui, vas-y.
Eh bien, vu que le podcast, cet épisode sortira mi-janvier, à peu près.
Non, il sort la semaine prochaine.
C'est mi-janvier la semaine prochaine.
Oh.
Captain, it's Wednesday.
Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est l'occasion de lui souhaiter une bonne année 2023.
Tout à fait.
Et je trouve d'ailleurs que c'est pas du tout ringard de souhaiter ses meilleurs vœux aux gens qu'on apprécie. Et
mais non, grave, aussi... moi il y a plein de gens à qui
je prends l'affection. Ouais.
Je prends le temps d'envoyer, même si on s'est pas parlé depuis 6 mois, un message de bonne année à certaines personnes, parce que
pareil.
C'est cool.
Et d'ailleurs, pour la personne toxique que je suis... C'est le meilleur moyen de retourner dans les DM de quelqu'un.
Évidemment, non mais c'est
alors
hyper,
ça,
franchement.
Alors ça, on déteste. Moi, tous mes ex qui m'envoient des DM.
Une fois par an à Noël, et c'est très bien,
meilleur
ça passe, c'est un petit check, tu vois.
Ah,
vous
ne
pourrez pas venir dans mes
check,
DM,
ouais.
Vous êtes bloqués. Si vous écoutez ce podcast, bande de stalkers.
J'ai reçu, ok, un peu vite bolos. J'ai reçu un message Facebook qui est tombé dans autre là. Enfin, en tout cas, de quelqu'un avec qui je suis pas amie Facebook. Un DM Messenger d'une personne qui était sous pseudo. Et qui me disait « Coucou Myriam, je voulais prendre des nouvelles, ça fait longtemps, sache qu'en tout cas, je ne, je ne, enfin, tout est derrière nous, tout est un peu, tout est pardonné, je t'en veux pas, on était au lycée, on était bêtes et tout. Et moi j'étais, ah, mais c'est qui? En plus sous pseudo et tout. Donc je me dis, je vais aller voir son profil. Et sa photo de profil, c'est un truc anti-vax et tout.
Oh, genre, wow.
Pas de passe nazitaire dans mon corps et tout. Je fais, oula, non, non. Et du coup, je pense que je sais qui c'est. Je pense que c'est mon ex du lycée qui était parti à l'armée après.
Ah,
et
bah,
qui
oui,
effectivement est très peu trouvable sur, est très peu stalkable parce qu'il a aucun compte à son nom. Donc, pas, juste par élimination, je pense que c'est lui. Mais il a profité des fêtes pour m'envoyer un message. Et là, pour le coup, c'est le record. Ça fait vraiment 15 ans qu'on s'est pas parlé, quoi.
C'est pas mal.
C'est un long ghosting mutuel de, on va plus faire ça.
En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis, Aïda. En gros, si vous avez l'impression d'être breadcrumbé, c'est-à-dire quelqu'un qui vous donne une miette, oui, d'attention une fois tous les 6 mois, voire un an, et que ça vous déplaît, bloquez la personne. Si ça vous déplaît pas, recevez son message.
Vous avez pas en visuel,
qu'est-ce que
mais
tu
Anthony a fait son petit regard qui pétille.
Ah, t'es encore célibataire!
Ah
j'ai
bon
une boîte de...
Ah, tu viens de rompre! Ah bah, dis donc!
J'ai une bouteille de Chardonnay qui traîne dans mon frigo, tu vas venir la déguster, et puis voilà.
Voilà, on ne sait pas sous quels auspices l'année peut commencer.
Voilà. Moi, mon année commence.
Écoute,
dans le célibat!
Tout ça pour dire, Jeanne, a priori, oui, envoie un message à ton crush, dis-lui bonne année, et puis advienne que pourra. Hein. C'est... La vie, c'est fluctuant. Parfois, on croit à des choses, et puis on grandit, et puis on change, et puis on découvre des nouvelles choses sur soi, et c'est pas grave. Mais c'est mieux de le faire sobre, histoire d'être sûr qu'on le fait pour les bonnes raisons.
Tu lui proposes une banane, tu lui souhaites une bonne année, tu lui proposes une expo et puis advienne que pourra.
Tout à fait. Aïda, t'as un com?
Ah ouais.
Ah ouais. Ça c'est vrai.
C'est là qu'on en était dans l'émission.
T'étais à fond dans c'est la là. Discussion. Quoi. T'étais là mais ouais. On va
je réfléchissais aux vœux de bonne année, aux gens à qui j'envoyais des messages et tout.
T'étais loin dans ta liste d'ex toi dans ta tête.
Pas mes ex.
Non mais j'ai vu trop de tweets et d'insta de gens dire oh, ouais c'est trop ringard d'envoyer des meilleurs vœux et tout. Je sais pas, mais moi je le fais. Enfin j'aime bien en recevoir, j'aime bien les envoyer.
Mais oui mais j'ai vu des gens sur Reddit râler sur mes collègues ils me disent bonne année. Je suis là ça va, ça c'est pas un problème dans ta vie. Enfin
ouais franchement
c'est une politesse
que dire bonne année à des gens quoi.
Oui de ouf.
Franchement, après... pour moi, c'est comme dire bonjour. Hein.
Bah oui. En janvier, tu dis bonjour, bonne année.
Ouais.
C'est vrai.
Mais après, moi, j'aime bien pas envoyer des messages de bonne année. C'est parfois, il y a des gens qui m'envoient des messages de bonne année qui sont hyper...
copier-coller.
Premier Doug. Et du coup, ils me souhaitent
la santé.
Ah oui.
Et c'est moi.
C'est trop sympa, tu vois, mais je sais pas comment réagir parce que moi, je sais pas...
Réponds avec l'emoji champagne.
Ouais, j'ai peur de souhaiter des trucs problématiques aux gens. Bah,
merci
enfin,
toi aussi, non? C'est bien.
Et non, quand t'as quelqu'un qui
tu
t'envoie un poème de bonne année,
et
tu dis pas
un
merci.
Poème
et
de
oui,
dire je t'aime aux gens qui aiment, mais c'est bon, ça marche avec tout le monde.
Mais c'est jamais une bonne idée d'envoyer un poème à quiconque, hein. Je suis désolée.
Je suis pas d'accord.
Envoyez-moi des poèmes de qualité, pas des mauvais poèmes.
Vraiment pas moi.
Non, par contre, moi, ce que je fais, c'est que du coup, je tout le mois de janvier, quand je vois un post Reddit qui me fait penser à quelqu'un, je l'envoie à la personne en lui disant bonne année. Et du coup, genre, là j'ai envoyé à une pote un Ask Me Anything de Reddit. Donc c'est un type de post Reddit où les gens donnent une information sur eux et tu peux leur poser toutes les questions que tu veux. Et là, c'était quelqu'un qui disait sur l'année 2022, j'ai mangé 202 bols de soupe pho. Posez-moi toutes vos questions.
Franchement, en termes de soupe au ravioli piquant de 3 fois plus de piment, je suis pas à 202, mais je suis pas très loin. Hein. C'est vraiment mon aliment de base en 2022.
Eh bien, ce sera à toi aussi, ta carte de bonne année 2023, Mimi. Bref, en tout cas, j'ai un commentaire de Sarah PLT qui me dit... Coucou Aïda, tout d'abord je voulais te remercier ainsi que toute l'équipe de Laisse-moi kiffer pour toute la joie que vous m'apportez au quotidien. Merci, j'adore quand on dit des trucs comme ça dans mes DM. Vous m'accompagnez depuis plusieurs années et me donnez tellement de bonnes vibes, une historique LM-cœur. Je suis tombée récemment sur un de tes lointains kiffs. Je pense que ça date d'un jour où on a fait un Twitch, un truc comme ça, enfin vraiment, probablement épisode 100 quelque chose quoi, okay. La centaine précédente. Depuis quelques mois, je travaille en librairie et au cours de mes explorations, je suis tombée sur le comics I Am Not Starfire dont tu avais parlé dans LMK il y a longtemps.
Yes!
Qui était incroyable. Et donc, elle me dit, je me suis empressée de le lire et c'est trop bien. Merci beaucoup pour cette belle découverte. Je serais sûrement passée à côté si tu ne m'en avais pas parlé. Bah, trop contente d'avoir l'occasion de reparler de ce comic book qui est excellent.
En vrai, il faudrait qu'on, un jour, je sais pas, j'ai dit un jour et après j'étais là, mais la masse de travail que ça représente. Faudrait faire une liste
non.
de tous les bouquins qui ont été recommandés dans LMK parce qu'il y en a plein, plein, plein. Et toutes les fois dans la vie où t'es là en mode, je sais pas quoi lire, je sais pas quoi offrir comme livre, et bah bam, 219 épisodes de LMK avec beaucoup de recoups de bouquins dedans quand même.
Et comme ça,
mais qui c'est qui va faire ce travail?
C'est pour ça que voilà. Je l'ai dit et je me suis arrêtée. Après,
voilà.
N'hésite pas à en toucher un mot à ta direction. Si Humanoïde veut me donner plus d'argent pour que je réécoute LMK et que je fasse un Excel, je peux. Mais
après, à partir de maintenant, je peux les noter dans un coin et en faire un sur l'année prochaine.
Tout à fait.
Vient, tu vois.
Tout à fait.
Comme ça, ça fait un challenge de lecture 2024.
C'est grave. Je trouve quand les gens disent « on ».
Oui. C'est un « on » de majesté.
On, c'est moi.
Bah, quand je dis « on note tous nos kiffs », c'est genre « on note nos propres kiffs littéraires sur un Google Doc », tu vois. C'était pas « on », genre « quelqu'un pas moi », c'était vraiment
« il y a qu'à Faucon ».
Chaque personne qui a un kiff de littérature le met. Oui, bref.
Oui, parce qu'on met ça sur les notes d'édition du podcast chaque semaine et « on » est crédité à la fin pour ça.
Oui, tout à fait, oui.
Et « on », c'est Bibi.
Ah, mais c'est vrai qu'avec les descriptions, on peut déjà… Ah, ok.
Ah bah oui, okay. Ça accélère vrai... le travail. Okay. Je fais des articles, les enfants, hein, sur le site Mademoiselle, vous avez toutes les références. Vous avez
bien
ça,
sûr. Nous sommes en réunion. Ce podcast est devenu un call.
Pour les PPT.
J'ai rien ajouté dans ma to-do list. Liste les bouquins à l'MK. Je promets pas que je vais le faire.
Non.
Mais peut-être je vais le faire. Voilà. Je promets pas de pas le faire non plus. Nous verrons. Vas-y.
Il y a juste la fin du commentaire de Sarah qui du coup est trop cool et qui dit bisous à toi, à ton chat, Agar t'embrasse et convulse. Oh. Et à toute l'équipe.
Et convulse.
C'est archi pas vrai.
Tu sais, je me dis que si Agar il signait des mails, il signerait genre épileptiquement vôtre ou un truc comme ça, tu vois. Et ce serait trop mignon.
C'est un épileptique du langage.
Bref, pas de digression, concentration. Et ensuite, elle me met un petit PS. Si jamais ce commentaire est lu lors d'un épisode, je remercie du fond du cœur ma petite sœur Emma que j'aime fort et qui m'a fait découvrir LMK.
Hi Emma.
Emma, merci, la petite sœur de Sarah.
Élitisme.
Merci de propager la bonne parole.
Tout à fait, n'hésitez pas à recommander à LMK aux gens que vous aimez, voire à faire du harcèlement moral pour qu'ils nous écoutent. Nous apporterons ainsi du bonheur dans leur vie chaque jeudi et vous pourrez débriefer des épisodes avec vous, ce qui est avec eux et elles, ce qui est toujours une bonne idée.
Envoyez des épisodes d'LMK en guise de carte de vœux aux gens que vous aimez.
Tout à fait. Tiens, un épisode d'une heure et demie de gens que tu connais pas qui digressent.
Ça m'a fait penser à toi.
Ça se tient, en vrai, c'est sympa.
Non, c'est vrai.
Mathis, tu as un commentaire ?
Bien sûr.
Incroyable professionnel.
J'ai un commentaire de Maëlys at Maloufani. Mon cher Mathis, on est jeudi, donc je suis en train d'écouter LMK comme chacun se doit. Et j'ai été
c'est
hyper
vrai, c'est
contente
la règle, c'est
de
la
ton
loi.
Kiff. C'est pas moi qui l'ai rajouté, hein, c'est vraiment le commentaire. Cette fois, c'est pas moi qui ai écrit le commentaire.
Quoi ? C'était toi la semaine dernière, Mathis ?
Oui, voilà, plot twist, c'était moi. Je suis une fan depuis toute petite de Mathilda, et notamment du film des années 90, donc de Danny DeVito, que je connais par cœur, comme Shrek, Big Up Alix. D'ailleurs, pas merci d'avoir brisé mes illusions par rapport à Roald Dahl, mais passons.
Yes.
Oula, ce DM est long. Ouais, il y a un
débat,
c'est
pas ouf. Ouais.
C'est pas zinzin. Oh. Faut pas trop creuser la vie de Roald Dahl. OMG, ce message est long. C'est elle qui le dit, hein, pas moi. Bref, tout ça pour dire qu'il se trouve que j'ai regardé Mathilda hier sur Netflix et j'ai été cette vieille conne qui disait ouais, pas mal, mais l'original est mieux. Mais il se trouve que je n'arrête pas d'y penser depuis hier en me disant que les chansons sont quand même vachement bien, notamment Revolting Children qui tourne en boucle sur Spotify depuis ce matin sans aucune honte. Si j'étais prof d'anglais, je la ferais étudier par mes élèves parce qu'elle est trop bien. Bref, merci pour le kiff et de m'avoir appris que Le Gourdin était joué par Emma Thompson et j'ai failli tomber de ma chaise. Donc la presse plaint en disant « Tain, Insta, me laisse pas finir, voilà un commentaire construit, sincère et enthousiaste pour ton prochain LMK. Et aussi bravo pour Dramatis, c'est vraiment trop chouette, j'apprécie toutes tes recos et tes
là,
genoux. »
Et là, c'est la partie du commentaire que tu as écrite toi-même.
Toujours pas. Continue comme ça, t'es au top, des bisous. Et après, voilà, on a discuté par vocaux parce que j'ai remercié et tout.
Des
voilà.
Bisous.
Et c'était très mimi. Merci
j'ai
beaucoup.
J'ai pas encore regardé Mathilda, mais je vais me faire ça, ça avait l'air bien. Moi, j'ai deux commentaires parce que j'ai pas eu envie de choisir et que c'est moi l'animatrice, j'ai le droit. Ah. J'en ai un de... Non, en vrai, c'est parce que j'en ai pas mal en stock et que je les écoule un petit peu. J'en ai un de Henji, je pense que ça se prononce comme ça, j'espère, qui me dit « Oh là là, Mimi, merci pour ton dernier kiff dans LMK. » Donc, c'est celui où je parlais de ma victoire d'aller à la retoucherie.
Oui.
Et de l'anxiété sociale qui entoure le fait de faire des activités dont je ne sais pas comment elles vont se passer exactement.
Ma sœur m'en a parlé, ça l'a beaucoup touchée.
Oh, écoute, ça me ravit. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Bravo d'être allé à la retoucherie !» J'étais là « Merci !» Vous savez que c'était une galère. Donc, Henji me dit « Anxiété sociale ici, j'ai pensé pendant si longtemps être la seule à ressentir ce genre de truc. Quand j'étais ado, tout le monde pensait que j'avais peur du bus et peur de la boulangerie, notamment, et que j'étais un boulet, alors que j'avais juste peur de mal gérer l'interaction sociale qui y était associée. Ça fait tellement de bien, à la moi de 15 ans, de savoir qu'il y a d'autres gens comme ça et que c'est ok. Découvrir à 31 ans que ce qu'on ressent depuis toujours a un nom, quel plaisir! Merci, bisous! Eh bien, écoute, Hanji, on a le même âge, et on avait toutes les deux peur de la boulangerie, et on va bien maintenant, donc c'est possible. Ça peut vous arriver. Et il y a Lola qui m'écrit, commentaire Mimicor. Salut Mimi, je viens de terminer l'épisode 212 de LMK, j'adore et je me devais absolument de t'écrire ce petit mot car la passion de mon chéri c'est les champignons. Depuis tout petit, il va dans les bois pour ramasser les champignons avec des livres pour les identifier. Tous les week-ends, il part en forêt se balader et ramasser des champignons. Attention, it gets better. Et cette année, on a pu réaliser un de ses plus grands rêves, adopter un petit chien qui l'accompagne dans ses aventures en forêt. Grâce à ton kiff, je vais pouvoir échanger avec lui un petit peu sur sa passion et je trouve ça trop cool. Merci pour tout ce que vous partagez. J'adore écouter vos kiffs, ça me permet de découvrir plein de choses et de réfléchir sur des sujets qui ne me touchent pas directement. Passez une bonne journée. Trop chou, Lola. Je vais réclamer une photo du chien et si elle me l'envoie, on la mettra dans la story. Sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer, pardon. La personne fait un AVC.
Ému par la perspective d'imaginer un enfant avec un livre pour essayer de reconnaître des champignons, c'est trop kiki.
Mais c'est pas un enfant, hein, c'est son mec.
Non, mais quand il était enfant.
Oui, avec un petit chapeau de scout et un petit panier à champignons et tout.
Un castor junior.
Oui, trop chou.
En revanche, ça m'interroge, comment est-ce qu'on élève des chiens, dresse des chiens, pour qu'ils reconnaissent les champignons? C'est fascinant.
Mais est-ce que tu penses
chien, qu'il va... Non, son chien,
il l'accompagne dans la forêt, quoi.
Et il fait le tour.
Après, il y a des chiens truchés, ça...
Ah oui, non, le chien est débile, il court autour.
Le chien était là. Oh, des truffes
dessus, globalement. Non, les chiens truffiers, ça existe que pour les truffes. Je pense pas que tu peux dresser un chien à reconnaître des girolles, peut-être. Mais les chiens truffiers, comme les truffes, c'est enfoui sous la terre, ça se cherche avec des cochons ou des chiens. Traditionnellement, des cochons.
Je suis déjà content que Ruby se rappelle de son nom.
En vrai, il n'y a pas grand chose dans ma bucket list de trucs que j'ai vraiment envie de faire avant de mourir. Il y a aller dans l'espace, c'est compliqué. Mais il y a aller chercher des truffes avec un cochon. Parce que ça
un cochon.
Mais un cochon truffier, ça existe. Et genre, c'est des cochons dressés.
C'est formidable.
Et du coup, ils sont dressés à trouver les truffes, mais à pas les bouffer immédiatement quand ils les trouvent. Parce que les cochons, ça bouffe vraiment tout. Et les truffes, c'est très bon. Mmh. Et j'aimerais trop, tu sais, t'es là dans la forêt, tu te balades avec un cochon et tu reviens avec des truffes. C'est MDR comme perspective.
J'adore.
T'imagines, j'aimerais tu peux louer un cochon truffier à la journée.
Mais
je pense que ça se fait, hein, sur
mon père a un ami qui a un cochon truffier. Donc tu vois, je suis à 2 degrés de séparation de la chasse aux truffes dans la Drôme.
Mais franchement, là, vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez un cochon truffier dans votre entourage?
Si vous avez un cochon truffier dans votre entourage proche, tout à fait.
Envoyez-le au 137,
envoyez-moi un DM. Mettez-moi en contact, ça va être super.
Ou un bœuf sommelier, enfin allez-y quoi, on y va.
Un bœuf sommelier.
Quoi, je sais pas, surtout des associations improbables de talents et d'animaux.
C'est l'heure. Alors, la semaine dernière, on a fait Message Boubou et Anec Bœuf de Star, mais qui était un peu une vie de bolosse aussi, je crois. Enfin, il y avait un mix. Dans le Message Boubou, il y avait une vie de bolosse.
Ouais, bah là,
aujourd'hui, on est full vie de bolosse.
Non, parce qu'il y a
j'adore.
Une star dedans.
Ah, il y a une star dedans.
Et oui.
Très bien. On est dans un combo. Vie de bolosse de Star par Miliana, qui nous dit... Un soir que je rentrais à vélo dans la mère patrie de Kalindi, alias Levallois-Perret, je double une voiture qui était arrêtée tout faretin au milieu de la voie. C'est très dangereux. À la seconde où je passe à la hauteur de la portière passager, Vlatipa que... Elle a écrit Vlatipa en un mot, ce qui est très drôle. Vlatipa que la personne ouvre et me propulse sur les voitures garées à la bonne place. Elle, ayant un sens aigu de la dramatisation, je suis persuadée que ces personnes veulent me kidnapper. Je hurle donc dans Levallois by night.
Évidemment.
C'est vraiment dans les cris.
Jusqu'à ce que je... réalise que Brahim Asloum est le passager. Bim bam boum, un champion du monde de boxe. C'est un mec qui est hyper connu, genre même moi je sais qui c'est, alors que vraiment la boxe, à part Mike Tyson, je connais pas grand chose. J'ai arrêté de crier sur le champ, personne voulait me kidnapper, ni reconnaître ses torts d'ailleurs. Ok, c'est ça le. Ok.
Ah oui, c'est
je pensais qu'il y avait passé mes 4 captures, désolé, j'ai niqué le rythme, j'ai raté le rythme. Il y avait 5 captures d'écran, mais en fait il y en a 2, c'est la vie de Bolos, et après il y en a une autre.
Mon cœur il est en suspension de battement. Après,
j'ai
pour
pas
le
lu
coup,
à l'avance parce
c'est
que j'aime la surprise.
Celle d'après, ouais.
Alors on embrasse quand même Bof, Brahim Asloum, s'il est dans une bagnole garée tout feu éteint au milieu de la voie, qui ouvre sa portière sur les cyclistes sans surveiller.
Ouais,
mais effectivement, ravi que personne n'ait essayé de te kidnapper. On est quand même.
Et on espère que tu vas bien.
Oui, ouais, on espère que tout va très bien et que l'assurance a joué en ta faveur si jamais il y a besoin. Alright, c'est la fin de cette intro. C'est l'heure des kiffs. C'est donc l'heure du jingle.
Jingle.
Fini de rire avec vos putains de digressions, c'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de cracher vos kiffs, c'est maintenant. C'est l'heure de lâcher vos kiffs, pour en faire des meilleurs kiffs, c'est l'heure.
Waouh, merci Valentin.
Anthony, c'est quoi ton kiff?
Attendez, c'était quoi le thème déjà?
Il n'y a pas de thème. Tu sais, c'est une émission, on dit des trucs qu'on aime bien et on digresse.
Alors,
ça
c'est
Mimi.
Sans famille. Voilà. Non,
tu veux qu'on fasse...
Attendez, non, c'est bon, je vais trouver en racontant une anecdote tout à l'heure. Ah oui, c'est formidable, merci.
Heureusement que je suis là. Hein.
Oui, merci Mathis. non, parce que sinon j'allais parler mon détartrage pendant une demi-heure.
En fait, ce que vous savez pas en vrai, c'est que genre c'est moi qui impose l'équipe chaque semaine
oui.
et qu'ils font avec.
On choisit juste dans la liste que Mathis nous dresse. Bah, détartrage, ça m'intéresse aussi. Hein.
Ton kiff, Mimi, c'est Robert Badinter. Démerde-toi.
Alors, abolition de la peine de mort. Bien sûr que je pourrais improviser un kiff sur Robert Badinter.
Mais bien sûr.
Mais oui, non, pour la faire courte sur le détartrage, c'était je déteste ça, j'ai très peur du dentiste, et mais je me dis, y aller souvent, au moins une fois par an, eh bien ça permet que quand tu y vas, ça se passe bien.
Oui.
Parce que si tu tardes trop et que tu y vas tous les 10 ans, bah il y a moyen qu'il y ait une couille.
Oui.
Donc voilà.
Dans la bouche, c'est... ce qui est désagréable.
Bah, ou même moi, j'ai très très
peur.
Sauf si c'est consenti. C'est pas toujours désagréable. J'ai très très peur du dentiste et du coup, j'y vais pas tous les ans. Enfin, là, ça va mieux parce que j'en ai trouvé un gentil. Donc, je vais essayer d'y aller tous les ans. J'ai été trop mal du dentiste et du coup, bah, la première fois que j'ai été voir celui-là, j'avais pas été chez le dentiste depuis, je pense, 5, 6, 7 ans peut-être. Et il m'a dit, bah, en gros, le brossage et tout, il est bien, mais je vais vous faire un détartrage et on va devoir le faire en plusieurs fois parce que ça fait longtemps. Et du coup, bah, on va faire une partie. Après, il faut revenir dans 2 semaines. Et j'étais là, non, je dois revenir parce que même s'il est gentil et doux, bon, ça reste un dentiste, c'est jamais une partie de plaisir pour moi d'y aller.
C'est des dents, quoi.
Et, mais si j'y allais tous les ans, j'aurais pas à faire un détartrage en 3 fois. Donc, je vais essayer d'être sage. Régulière.
Voilà, surtout que, enfin, pour les personnes qui nous écoutent, qui vivent en France et qui sont couverts par l'assurance maladie et qui ont une mutuelle, bah, généralement, vous payez rien, quoi. Donc,
oui, 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 non, c'est pas une question d'argent, la peur du dentiste.
C'était mon. Je comprends totalement la peur du dentiste. Moi, c'est pas une peur phobique, donc je suis bien loti à ce niveau-là. Mais en tout cas, j'y vais une fois par an, juste après le nouvel an, parce que ça me donne bonne conscience.
Comme ça, tu commences ton année, t'as déjà coché une bonne résolution, t'es là.
C'est trop smart.
Dentiste.
C'est ça.
Trop malin.
Et vraiment, je suis content de l'avoir fait parce que j'ai l'impression de me rendre service. Et c'est souvent un truc que je fais, c'est genre se traiter comme son meilleur ami et rendre service au futur soi.
Yes. Genre, comme quand tu rentres bourré et que tu mets une bouteille d'eau sur
exactement.
La table.
Exactement.
Cette histoire n'est pas du tout liée à ma soirée d'hier.
Et voilà, j'avais un giga creux et j'avais une tablette de chocolat en cas d'urgence dans mon casier et du coup je l'ai dégainé. Bref, c'était pas du tout ça. Mon
que dirait ton dentiste?
Mais c'est un cadeau de ton toi du passé, trop sympa.
Exactement.
C'est vraiment un mec cool.
Ouais, c'est vraiment la gratitude.
Alors, si vous avez un peu de sous, je vous conseille, quand vous rangez vos manteaux, en fait, quand vous changez de saison, genre vous rangez vos manteaux d'hiver parce qu'on arrive au printemps, vous ressortez vos vestes d'été, alors mettez-les au pressing si vous voulez, je fais pas ça, mais non, mettez un billet de 5 dans une poche ou un billet de 10, tu vois, parce qu'il y a pas grand chose de plus sympa que de retrouver de l'argent que t'avais oublié, que t'avais mis de côté. Tu vois, genre tu montes dans ta bagnole, tu ouvres la boîte à gants et t'es là. J'ai un billet de 10, ça fait genre de l'argent gratuit alors que c'est ton argent depuis le début, tu vois.
Mais
moi,
si
quand
tu le places,
un
tu
jean
des
que j'ai pas porté depuis 6 mois et que je trouve un billet de 10 dans la poche arrière, j'ai l'impression que c'est de l'argent magique. J'ai l'impression que j'ai gagné de l'argent parce que je suis là, incroyable, j'ai 10 euros de plus que ce que j'avais en me levant ce matin. Donc si vous mettez un peu de sous dans les poches ou les doublures de vos vestes que vous rangez, vous aurez oublié dans 6 mois, comme un petit écureuil, vous serez là, incroyable, j'avais mis des noisettes de côté. Voilà, c'est
mais ne faites pas ça si vous l'amenez au pressing.
Non, ne faites pas ça si vous l'amenez au pressing. C'est pour ça que j'allais pas sur le pressing à la base.
Ça marche pas avec le chocolat, ça.
Non,
t'es pas
non,
content de retrouver du chocolat.
Mais t'es pas une tablette de chocolat
après,
dans
non, non, le chocolat, faut le stocker dans tes joues, comme un petit écureuil. Enfin,
ou dans ton casier, ou
des animaux.
Mais combien de temps
dans ton non, mais amenez vos manteaux, si vous voulez les garder longtemps au pressing, en fin d'hiver, c'est intéressant parce que ça permet de prolonger leur durée de vie.
Tout
même
à
en
fait,
ils ont 10 ans, voilà. Bref, mon kiff, c'était encore une fois, je suis navrée, LMK, mais en fait pas du tout désolée, c'est encore un cabaret. Mais vraiment, c'était incroyable.
Comment
donc...
peux-tu être navré en ayant cet enthousiasme? Écoute, bien sûr que les gens vont être ravis.
Longue histoire courte, j'adore les cabarets, j'adore le spectacle vivant, j'adore voir des émotions fortes, les vivre ensemble, face à des gens qui présentent leur talent, leur art, leur métier, leur passion, devant toi, devant tes yeux, pas à travers un écran. Big up le cinéma et les séries quand même, hein. Mais j'adore le théâtre et les cabarets. Et tout ce qui est spectacle vivant. Du coup, il y avait un cabaret qu'il n'avait pas encore vu dernièrement, c'était Madame Arthur, qui est un grand, grand cabaret. Voilà,
oui.
Effectivement, c'est un cabaret centenaire.
Moi qui suis juste là en mode, ça existe ça? Oui, 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 c'est un vrai lieu.
À Paris, du côté de Pigalle, à côté du Moulin Rouge. Et donc, ce cabaret extraordinaire. Et en fait, ce qui est un peu étonnant, c'est que c'est un cabaret très traditionnel. Du coup, la plupart des cabarets français chantent en français. Mais, en tout cas, Madame Arthur est très connue pour chanter du répertoire français. Et là, à l'approche des fêtes de fin d'année 2022, ils ont fait un spectacle spécial pour attirer les touristes. En tout cas, pour que les touristes ne soient pas complètement largués. C'était, Are You Madame Arthur?
Voulez-vous coucher avec Madame Arthur ce soir?
Et c'était mis en scène par différents artistes, dont Clara Brightman, dont j'avais fait une interview pour Mademoiselle. Donc vous la retrouvez sur Mademoiselle, si vous tapez Clara Cabaret sur Mademoiselle.com.
Ou dans les notes,
du podcast, car Mathis est formidable et il l'aura lu.
C'est très vrai.
Et s'il le fait pas, c'est moi qui le relis et qui le rajoute. Donc,
on devrait être menacé.
Non, pas du tout.
C'était menacé.
Je souligne le travail d'équipe.
Tout très gentil, fait. Mon petit. Vous mettrez ça dans les notes du podcast.
Mon petit, vous faites le plaisir d'eux.
Moi, j'adore dire merci d'eux, je sais pas quoi.
Ah putain. J'ai un pote, il a pas parlé à un autre pote pendant 6 mois parce que l'autre pote lui a dit tu me feras le plaisir de, et qu'il a dit je laisse pas mes managers me parler comme ça, je te laisse pas me parler comme ça, mais il lui a pas dit, il a juste décidé dans sa tête
Oh,
ce connard il m'a dit tu me feras le plaisir de, bah il va voir, et après il lui a plus parlé.
Moi, je comprends là, trop ce move,
dis-lui que c'est ça le problème, il était là non il a qu'à mieux me parler.
Vous trouvez ça impoli de dire tu me feras le plaisir de?
Oui, bien sûr. Son nom. Je le dis pas à mes potes, tu vois.
Ah, okay.
Et je pense que quand je bossais avec vous, quand j'étais votre chef, je vous le disais pas.
Non.
Je le dis au RP chiant à qui j'ai dit 4 fois en fait arrêtez de m'appeler, c'est mon numéro perso, je vais leur dire tu me feras plaisir de supprimer mon numéro, tu vois. Mais c'est,
oui, mais c'est, tu feras le plaisir de supprimer mon numéro, ouais,
non mais tu me feras le plaisir de rendre ton article, c'est aussi, enfin c'est hyper violent, tu vois, je trouve.
Ah ouais,
genre
c'est
une façon
agressif,
hyper agressive de demander un truc, je trouve.
Ça peut s'utiliser que dans un contexte agressif ou passif agressif, il y a pas de moyen sympa de dire tu me feras le plaisir de,
à la limite merci de, tu vois, c'est plus variable.
Oui.
Genre merci de m'envoyer ton article avant midi, c'est pas forcément merci de m'envoyer ton article avant midi cette fois-ci, mais tu me feras le plaisir deux, c'est vraiment genre tu devrais le savoir, mais bon, puisque tu dois te le répéter. C'est hyper agressif.
Ouais, et puis c'est un peu, enfin ça reste un peu de l'impératif, et ça reste un truc genre tu prends pour qui, tu me feras le plaisir de, genre calme-toi, tu vois.
Mais faut le tourner comme une question, genre tu tiens à ton job.
Oui, c'est en termes
et après,
de question passive agressive.
Voilà, tu...
Ok, d'accord. De toute façon, moi je dis pas tu me feras le plaisir de parce que j'ai pas le temps avec ce périphrase chelou. Je dis merci de faire ton travail. Et puis voilà.
Et de mettre le lien dans les notes du podcast, Mathis. Merci.
Non. Je vais crier dans mon coude un peu, j'arrive.
Mais j'ai pas dit
ça. J'adore cette réaction au stress. Je vais crier dans mon coude.
Comme Mathis est formidable, ce sera dans les notes du podcast.
Bien sûr.
Voilà. Et s'il le fait pas, je le ferai.
Et s'il le fait pas, il n'est pas formidable.
Non, j'ai dit que je le ferai. Bref. Ouais. Donc,
tu es formidable en soi, Mathis. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit.
Enfin, si t'as quand même besoin de faire ton travail. Merci.
Madame Arthur, donc.
Alors, donc, Madame Arthur, ils ont fait un spectacle au mois de décembre, Are You Madame Arthur, où en fait les moments entre chaque numéro sont en anglais.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Théoriquement. Mais il y a plein de private jokes en français qui sont pas du tout private parce qu'on est censé dans la pièce. Et c'était archi, archi, archi drôle. J'y suis allé vraiment sur un coup de tête le 27 décembre, un truc comme ça. Tu vois, genre,
meilleure
entre
vie.
Noël et le Nouvel An. Et parce qu'il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de mauvais
plaisir.
Jour pour aller au cabaret.
Pas besoin de prétexte pour se faire plaisir. Ouais.
Tout à fait.
Et il n'y a que des bons jours pour aller au cabaret, effectivement. Et c'était
ça
incroyable.
Coûte combien à peu près,
alors, le cabaret Madame Arthur, à cette période de l'année-là, qui est la période de fête de fin d'année, donc
oui.
Une période qui peut être un peu chère.
Oui, bah, j'avais regardé pour y passer la soirée du 31, mais c'était un prix que je pouvais
cher.
Pas... Voilà. Mais c'est normal, c'est la big soirée.
C'est, moi, j'étais en placement debout, c'est 20 euros, et tu vois très bien. Enfin, moi, j'étais au premier rang, je vais vous raconter. Sinon, les places du milieu sont réservées aux gens qui ont pris des places assises à table. C'est 80 euros avec ta bouteille de champagne. Donc, t'as demi-bouteille de champagne. Mais du coup, comme t'es souvent deux... Non, je sais pas.
Oui, c'est 80 euros par personne et chaque personne a une demi-bouteille de champagne personnelle.
Une bouteille de champagne.
Interesting.
Mais sinon, ils coupent en deux, ça se passe comment quand t'es tout seul et que t'as pas d'amis, je sais pas.
T'as une mignonette.
Bah non, mais t'as une demi. Ouais, voilà, c'est
mignonette. Ah, ça existe différentes tailles de champagne, super.
Alors, pas les mignonnettes de vodka parce que vraiment ça te fait une
coupette. Je connais rien du
monde. Flash,
non, mais je pense
d'arriver
à une demi-bouteille.
Je pense qu'on te sert deux fois.
Voilà.
Et en plus, il y a beaucoup. pour le coup, c'est assez staffé. J'étais assez étonnée. Du coup, ça circule beaucoup. Donc, t'es servi assez rapidement si t'as envie de consommer des choses. Mais moi, je suis pauvre et radin, donc je l'ai pas fait. Et en gros, c'était incroyable. C'était vraiment trop bien. Pour vous la faire courte, en gros, l'ouverture des portes est à 20h. Le spectacle commence à 21h. Les numéros s'enchaînent assez rapidement, mais c'est hyper vivant. C'est très drôle. Il y a plein d'interactions avec le public parce que c'est le cabaret. Donc, il n'y a pas de quatrième mur. Ils n'arrêtent pas d'interagir, de te faire des blagues, de te faire monter sur scène ou de descendre te voir sur scène. Mais c'était dément. Genre, à un moment, je sais plus. Donc, il y avait 4 artistes globalement pendant ce numéro-là. Il y avait Charlie Vaudou qui était au piano pendant toute la soirée. Il y avait un artiste qui s'appelle La Biche, qui était très très drôle, et il y avait aussi Billy Larme à l'œil, qui ressemble un peu à un drag king, enfin, de toute façon, toutes ces personnes-là, c'était créatures, enfin, c'est le cabaret. Et la quatrième personne, c'était Maud Amour. Maud Amour, c'est une esthétique un peu pin-up, très sexy, voilà. Et donc, en gros, je crois que l'un des premiers numéros, c'était Ne me quitte pas. Oui, voilà, pardon, ce que je voulais te préciser, c'était que, ils chantaient en français des grands classiques du répertoire. Et les trucs entre les numéros, c'était en anglais. Mais du coup, ils jouaient sur le fait que c'était à moitié traduit. Et donc, ils ont chanté « Ne me quitte pas ». Et t'avais Billy Larme à l'œil qui chantait « Ne me quitte pas ». Et t'avais la biche qui faisait la traduction, mais en faisant plein de blagues, c'était n'importe quoi. En direct, tu vois. Genre, c'était « Ne me quitte pas ».« Don't leave me ». Enfin, ouais, c'était n'importe quoi. Et il y avait un autre numéro dément où t'avais... La biche qui a chanté Dalida, Bang Bang, mais elle a chanté Gang Bang. Genre, je me suis fait tourner par des flics dans un commissariat. Et donc, quand elle a dit des policiers qui étaient là, « Ah, cab !» Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et t'avais Maud Amour qui a fait un numéro, mais fou. En gros, franchement, moi, j'aurais pas osé, mais bref. Je salue son audace.
The Audacity.
En gros, Maud Amour, elle a chanté... mince, Olivia Ruiz, Femme Chocolat.
La Femme Chocolat.
Oui, La Femme Chocolat.
Ouais, voilà, merci.
Le Daronistan. On est là.
Le Daronistan et la province. Olivia Ruiz, on est là.
Mais du coup, genre, toute la soirée était dans des robes sublimes, hyper fendues, hyper décolletées, avec des escarpins loup-boutin vertigineux. Et pour le numéro La Femme Chocolat d'Olivia Ruiz, elle s'est ramenée en micro tablier en latex blanc, ultra décolleté aussi, et avec un pot de mousse au chocolat qu'elle a commencé à déguster en chantant. Puis elle m'a fait signe à moi, qui était au premier rang, pour dire « Tiens, toi, viens me lécher le chocolat que j'étale maintenant sur mon tibia. » Et moi, ni une ni deux, j'y suis allée.
Je t'adore.
Je me serais cachée sous une table.
Moi, je suis un vieux con, genre « Oh non, 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 non. »
Après,
j'aurais disparu.
Mais justement, juste avant, je suis en train de me dire « Mais c'est pas du tout hygiénique ce qu'elle est en train de faire et tout. » Après, elle m'a appelé, j'étais « Bon, ok. » Après, elle s'en est mis sur la fesse. Et elle a demandé à quelqu'un d'autre de venir lui lécher la fesse. Le quelqu'un d'autre a vachement hésité, tu vois. Et après, elle allait encore plus loin. Elle s'en est mise sur les tétons, genre. Elle a dit...
Ah, c'est trop mignon quand on parle sur les tétons.
Oh là là. C'est pas légal.
Rougis et tout. Elle a dit... Elle sur les tétons, il fallait lui lécher. Elle a dit... Devant tout le monde, hein.
Non, mais tout le monde est gêné, hein, je peux te dire. Oui. Et du coup, elle a désigné 2 femmes dans le public pour qu'elles viennent et tout. Enfin, c'était... Mais genre, ça allait toujours plus loin. Okay. Tu dis, elle peut pas aller plus loin, elle allait plus loin.
Ok.
Donc, c'était une claque artistique, créative.
Mais donc, si jamais on est comme Aïda ou comme une partie des potes que j'ai envie d'y emmener, mais en même temps, je me dis, si ils ont une drag queen sur scène en escarpin loup-boutin qui leur dit monte sur scène, c'est des gens qui vont prendre feu parce qu'ils aiment pas être au centre de l'attention. Tu peux dire non, c'est pas. Parce que des fois, genre, il y a du stand-up où j'emmène pas certains potes parce que c'est du stand-up où je sais que le comédien ou la comédienne fait beaucoup, beaucoup de trucs avec le public et que mes potes, genre, s'ils savent qu'il y a une chance pour eux, enfin, un risque pour eux d'être mis en avant, ils sont là. Je vais passer une bonne soirée parce que je vais paniquer tout le long en disant peut-être ça va être pour moi, peut-être ça va être pour moi. Donc si tu peux juste dire non et la personne va pas insister, it's good.
Oui, voilà. Et au pire, tu te retournes au moment où la personne commence à regarder le public, tu vois.
Quoi? Mais... Moi, non. C'est comme oui, voilà. Pour quand tu veux pas répondre.
On voit exactement.
Au pire, mais... tu profites de ce moment pour aller reprendre un verre, quoi.
Mais ça marche quand t'es au cabaret parce que les personnes, elles te demandent quelque chose, tu vois, genre elles te demandent de venir et tout. Mais genre, typiquement, moi, les trucs de stand-up où je prends feu si quelqu'un me regarde ou regarde vers moi. Tu sais, on ne demande pas la permission, genre, ah tiens, est-ce que tu veux bien me donner ton prénom? On te dit, comment tu t'appelles? Et si tu réponds non, Après, le mec, il fait que des blagues sur toi pendant 45 minutes.
Il faut juste pas se mettre trop devant. Quoi. C'est généralement, horrible. Au-delà du 10e rang, t'es trop... au stand-up, la personne te voit pas, donc t'es tranquille.
Ouais, mais sinon, se mettre par terre derrière un fauteuil, c'est bien.
Tu peux pas y aller, aller au McDo à la place, c'est plein de façons de
faire.
Un truc comme ça, t'entends, mais t'es sûr de pas participer.
Mais surtout, si vous êtes pas... Si vous êtes accompagné, bah, l'autre personne peut se dévouer, y aller à votre place, quoi.
Oui, mais si les deux sont... Oui, c'est vrai, moi, au pire, je prendrai une balle pour mes potes, tu vois, je serai là en mode. T'inquiète.
C'est le titre de cet épisode.
C'est à vous de voir, mais je pense que c'est compatible avec beaucoup de timidité, d'introversion, voire de l'anxiété. Enfin, ça dépend, vous voyez, vous faites votre propre thermostat. Mais c'était vraiment incroyable. Je me répète depuis tout à l'heure. Mais il y avait même un moment, mais ça m'a fait découvrir une chanson aussi que je connaissais pas, que j'ai adoré, qui était hyper bien écrite. C'était Carly Vaudou qui reprenait au piano. Donc, notamment, il a repris Boomerang de Serge Gainsbourg. Bon, ok, on pense qu'on veut de Serge Gainsbourg, mais cette chanson est sublime.
Ouais, elle est vraiment très belle.
Et il y a une autre chanson comme ça, qui s'appelait Idée Noire, que je connaissais pas, je sais pas si vous connaissez.
Non. Chantal là pour voir.
Non.
C'est comme ça qu'on peut la découvrir.
C'est Idée Noire de Bernard Lavilliers.
Ah, j'adore Bernard Lavilliers. Ah, peut-être je la connais, alors attends, je vais aller voir les paroles.
Mais en tout cas.
J'adore Bernard Lavilliers.
C'est extrêmement bien écrit.
New Mimi Unlocked.
Alors, ok, j'ai Bernard Lavilliers et Leonard Cohen dans ma vie, car j'ai un daron, hein, tout simplement.
Ah, ouais.
Je ne suis pas venue moi-même toute seule à Bernard Lavilliers à mes 14 ans, oui, comme ça. Une personne moderne. C'était
juste
un
marine,
des trois
tu vois,
CD qu'on avait dans la voiture.
Bosser sur un voilier.
Oui. Je voulais faire une micro-parenthèse. J'allais juste dire, ouais, moi ça m'arrive souvent qu'on m'interpelle dans le public parce que je suis tout le temps au premier rang parce que je suis bigleux. Et du coup, les gens disent, ouais, on avait grave un eye contact et tout. Je dis, ah oui, j'essaie de te voir net quoi. Enfin,
La double peine, je suis myope et on m'oblige à participer à tous les spectacles.
Non, mais c'est une obligation à laquelle je participe volontiers, avec délectation même.
Parce que t'es fait pour les. Comment on appelle ça? Pour la scène et pour les.
Comment on appelle ça?
La lumière des stars là.
Ah, non, pas du tout.
Les projecteurs, voilà, le feu de la
lumière
rampe.
Des stars.
Non, pas du tout. Mais j'aimerais trop faire. Mais je sais plus comment ça s'appelle, mais genre les gens qui s'occupent des changements de décors et de costumes et tout, les petits lapins? Je sais plus. Il y a un terme dans le cabaret, mais je sais plus ce que c'est.
I don't know. Je ne suis pas.
Les miskines.
Fendu au lingo du cabaret.
Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais la biche qui reprenait bang bang en mode gang bang pendant 3 minutes. Avec tout est réécrit en mode, j'ai fait une partouze dans un commissariat, c'était hilarant.
Enfin, ça a l'air très drôle.
C'est franchement, mais c'était en plus hyper bien écrit. Mais bon, je fais que de me répéter, je ne sais pas m'arrêter pour vanter les louanges des cabarets, donc allez-y.
Allez au cabaret, allez chez Madame Arthur, ou dans un autre cabaret qu'Anthony vous a vanté, ou dans le cabaret de votre ville si vous n'êtes pas à Paris.
Vous croyez qu'il y a un cabaret qui s'appelle Mademoiselle Valérie? Pardon.
Il faudrait peut-être le créer. Mais maintenant, j'ai Kinvé dans la tête, donc c'est
incroyable.
Ouais. Toujours.
J'avais pas compris.
Merci, Anthony. Et bravo de ne pas avoir la ref Kinvé. Tu ne rates rien, finalement, ouais, musicalement.
Une référence à Valérie Trierweiler, genre. Parce qu'ils n'étaient pas mariés.
Pécresse, non.
Oh, le fait que c'est pas vrai et que la chanson a été écrite. Kinvé l'a écrit pour Valérie Trierweiler.
Ok, je crois à cette théorie du complot immédiatement.
Oui.
Aïda, c'est quoi ton kiff?
Est-ce que je peux aller me chercher un verre d'eau d'abord? Parce que je tousse.
Bah non. Je vais faire pareil. Ah, dommage. Bon.
Personne ne sait que je fais bien la voix de radio. Vous avez loupé ce moment.
Vous l'aurez une fois. Rappelez-moi dans un chat Twitch pendant un DLMK en live et vous aurez Mathis qui fait une incroyable voix de radio. Promis. Voilà. Teasing. Aïda.
Ce sera super.
Embauchez-moi.
Oui. C'est quoi ton kiff?
Mon kiff est une série.
Youpi.
Car on en a parlé récemment. Vous savez que j'ai une passion malsaine pour le cringe et donc les mockumentaries. On a parlé de mon amour d'homme toxique pour la série The Office.
Tu les aimes bien, sauf dans tes DM, en fait.
De quoi?
Tu les aimes bien, sauf dans tes DM, les hommes toxiques. Tu les regardes à la télé, genre.
Non, The Office. Enfin, si, il y a grave des hommes toxiques dans
si.
The Office.
Bah, oui.
Mais c'est plus.
C'est le propos.
Le fait d'aimer autant The Office qui fait que je suis moi-même parfois un homme toxique.
Ah, c'est comme les mecs qui aiment bien OSS 117.
Non,
un
non, 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 non.
C'est grave.
Non, ça n'a rien à voir. Avec les gens qui aiment OSS 117 et qui mettent dans leur bio
une
Tinder.
Enquête sur Mad auprès des hommes qui mettent OSS 117 dans leur bio Tinder. N'hésitez pas à la lire, elle est dans la description.
Est-ce que... Ouais, bref.
Car je suis formidable.
Anyways, j'aime donc les mockumentaries, ces séries qui font semblant d'être des documentaires et qui sont souvent... qui cultivent un espèce d'humour un peu gênant à base de regard caméra et de malaise social globalement. Donc on a déjà parlé dans LMK de The Office, on a parlé de Parks and Rec, je crois que c'est toi qui avais fait un kiff là-dessus.
Tout à fait, et j'en ai fait un live il y a deux jours sur ma chaîne parce que j'ai fait découvrir Parks and Rec à mon mec.
Ça avait l'air trop
et
bien.
Du coup on a fait une tier list des personnages, on s'est, donc un classement des personnages, on s'est vraiment genre mis sur la gueule, c'était très drôle.
Vous avez mis qui en prime, c'est qui en dernier? Je veux pas savoir le milieu.
En dernier, on a mis Mark Brennanowitz évidemment,
ah ouais,
et un autre perso un peu random, et en premier bah, on a mis tous les personnages principaux. C'était
car
très compliqué. Mais parce que mon mec voulait mettre Lil Sebastian en dernier. J'étais là, tu te calmes. Et du coup, après, j'ai dit aux gens, si vous subez, genre, si vous vous abonnez de façon payante à ma chaîne, vous dites dans le chat si vous voulez monter ou descendre Lil Sebastian dans le classement, et ça a marché. J'ai eu 2 subs pour ça. Petite astuce, voilà, de streameuse. Donnez aux gens des raisons de sub et après, ils vous donnent de l'argent. Même si c'est des raisons aussi cons que ce mini cheval va monter ou descendre dans un classement qui n'a aucune forme d'importance ou de légitimité parce que c'est juste
le
mien.
Quoi ? Ne dis pas, sinon
les gens
pas.
Ils vont me voler mon modèle économique.
Garde ta polémique.
Bien sûr, ça clash.
Donc, étant une grande fan de ces deux monuments de l'histoire des séries un peu américaines, j'ai découvert une version encore mieux de ces deux choses qui s'appelle Abbott Elementary.
Oh. Il paraît que c'est vraiment super. Alors, vas-y, convainc-moi de regarder une série qui se passe dans une école. C'est mon blocage. Hein.
Ah ouais?
Et qui est sur Netflix, je crois.
Non, c'est sur Disney+.
Ok, bon, c'est pas une... Tu vois, genre, HBO pour moi, donc HBO, CSC, gage de qualité. Apple fait des séries incroyables. Ouais. Netflix, pour moi, maintenant, c'est un critère excluant. Genre, c'est une série Netflix, je suis là, ah, dommage. Mmh. Et Prime fait des trucs quand même globalement bien quand il part pas en full mascu. Disney+, à voir.
Tout
donc vas-y, convainc-moi. Mais... Oui, j'ai des opinions.
Alors, c'est sur Disney+, mais c'est pas produit par Disney. Je crois que c'est ABC.
Ok.
Donc une chaîne américaine un peu basique. J'ai
très sitcom familial, tout ouais, ça.
Voilà. C'est eux qu'on fait Pretty Little Liars, non?
Ah ouais?
Peut-être.
J'en ai aucune idée. Je suis très mauvaise en chaîne américaine. Bref, donc Abbott Elementary. Ça se passe dans une école. Effectivement, c'est l'histoire d'une école primaire de Philadelphie, une école publique aux États-Unis. Ce qui veut dire pas d'argent, ce qui veut dire globalement la Hesse. Et en gros, ça retrace l'histoire des profs de cette école. Et voilà, c'est donc t'as des jeunes profs, des vieux profs, hein, voilà, t'as un peu ce truc intergénérationnel que t'as souvent dans les sitcoms. Et ça raconte avec vraiment beaucoup d'humour comment ils arrivent à se démerder pour essayer de faire vivre leur métier avec deux bouts de ficelle et deux cailloux, quoi. Pardon, je perds ma voix car j'ai eu la grippe il y a quelques semaines et que je n'arrive pas à faire partir ce chat dans ma gorge. Bref.
Ok, Rémi, sans famille.
Et après, j'ai eu la grippe et ensuite, j'ai perdu ma maison comme Rémi sans famille. Bref, donc, Abbott Elementary, c'est ça. C'est, en gros, vu que c'est une école à Philadelphie, c'est une série où la majorité des personnages sont noirs. C'est même la majorité des personnages sont des meufs noires, ce qui est trop cool. Et donc, ça fait découvrir déjà plein d'actrices qui sont très peu connues. C'est vraiment trop drôle parce que c'est con de ouf. C'est le concept du documentary, quoi. C'est que chaque personnage a un peu sa petite spécificité. Encore que là, ça joue pas trop sur des gros clichés, mais juste, t'as un personnage qui est celui de la directrice qui est là par hasard parce qu'en fait, elle a fait du chantage. En gros, la personne qui recrutait le directeur ou la directrice de l'école s'est fait choper par cette meuf en train de tromper sa femme avec genre la révérende ou je sais pas quelqu'un de l'église quoi, de diaconesse.
Oh, le drama déjà.
Et donc elle a chopé le taf comme ça en faisant du blackmail au mec en disant bah voilà maintenant moi c'est mon taf, sauf qu'elle est nulle et du coup elle fait absolument n'importe quoi, genre elle prend le mégaphone de l'école pour faire passer des messages et elle dit n'importe quoi dedans. Bref, c'est vraiment très con, ce personnage est hilarant et détestable. Et au milieu de ça, t'as plein de profs qui sont là et qui essayent un petit peu de faire ce qu'ils peuvent pour les gamins. Tu vois peu les élèves, tu les vois un peu, mais tu vois plutôt les grosses problématiques auxquelles les profs dans le public sont confrontés aux États-Unis, mais franchement, je pense qu'en France aussi, en vrai. Genre, comment tu te démerdes pour trouver un tapis, comment tu te démerdes pour faire bouffer tes élèves, comment tu te démerdes pour...
Avec 35 élèves par classe, tout
exactement.
Ça, quoi.
Exactement. Et en fait, tout ça, c'est tourné avec vraiment beaucoup, beaucoup d'humour et de bienveillance. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, dans la série. C'est que là où The Office, vraiment, les premières saisons, c'est genre du cringe sur... on se moque de gens qui disent des trucs problématiques, mais du coup, on dit nous-mêmes des trucs problématiques, tu vois. Parks and Rec, c'est un peu plus... c'est un peu plus mimes, tu vois. T'as moins ce truc archi-problématique, mais c'est vraiment... con sa mère.
Oui, les gens de cet univers sont quand même... Waouh.
Ouais, en fait,
oui.
C'est pas réaliste tellement les gens sont cons.
Oui, c'est des archétypes poussés au maximum, quoi. C'est de l'absurde.
Et t'as pas forcément de messages ou d'histoires à raconter derrière, même si en vrai c'est pas très grave si t'as pas une morale absolue et politique à chaque truc. Mais là, c'est trop intéressant la manière dont justement Abbott Elementary ça fait le mix entre raconter une réalité qui est là, qui est pas facile, ça passe sur des grandes chaînes, c'est un truc qui est hyper mainstream, et du coup c'est cool d'avoir des espaces où raconter ces histoires-là, ces histoires de de profs dans le public et de gamins qui sont en galère dans des banlieues de Philadelphie, tu vois, sans être dans un truc complètement dramatique, en mode « Oh mon Dieu, regardez-les, machin », c'est juste des gens qui font leur taf, qui aiment ça, et qui font plein de blagues au milieu. Les archétypes qui, pour le coup, sont utilisés dans la série sont très drôles, notamment parce que, comme c'est créé en 2022 et que c'est des références qui sont archi récentes, t'as aussi tout un truc autour de... Enfin, je sais pas, c'est une série écrite par des gens woke, tu vois. Donc t'as vraiment plein de blagues, genre t'as un prof qui est le seul prof blanc de l'établissement qui a trop peur de toujours dire un truc à côté, mais qui du coup en devient insupportable. Genre, il est tout le temps là, et là, je suis en bon allié quand j'ai dit ça, et là, c'était bien ou pas. Et tous les autres qui sont là, ta gueule, Jérôme. Et
dans la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine, il y a le personnage de Boyle qui est un flic blanc assez... gentil mais ouais intense quoi, et un peu zinzin, qui part en full allié de la lutte contre l'antiracisme, et c'est vraiment genre les personnages afro-américains de la série sont là, mec non, stop, descend, vraiment tu gênes tout le monde, on veut pas ton soutien,
calm down.
Ouais, sois juste une personne normale et plutôt sympa, ça va bien se passer.
Bah voilà, t'as un peu ces ressorts humoristiques là, t'as vraiment l'actrice principale, elle a un mec qui veut percer dans le rap, sauf que son deal dans le rap c'est de genre faire du rap anti-drogue, et du coup ça marche pas, et le mec il est super cringe, il fait n'importe quoi, enfin bref. Tout est hyper bien pensé, d'ailleurs c'est une série qui a été archi récompensée, primée aux Emmy et tout, moi c'est quand j'ai vu justement que genre je sais pas, tout le monde avait l'air...
Je sais que c'est très très salué par la critique, comme ouais. Une très bonne comédie, donc... Ça me met un peu en confiance. Mais la dernière comédie qui a fait kiffer tout le monde, c'était Schitt's Creek, une série comique, je crois, canadienne, qui avait tout raflé au Emmy il y a un ou deux ans. Et alors j'ai entamé, qui est aussi peut-être un mockumentary, et c'est sur une famille, je crois, de genre hyper friqués, bobo hipster, qui se retrouve à Schitt's Creek, qui est littéralement un petit bled qui a un nom de caca. Donc c'est, voilà, fish out of the water et tout. Et j'ai essayé, j'ai vu quatre épisodes, et j'étais là, c'est quand qu'on rigole? Ça ne vient pas, ça ne marche pas. Donc... Ça ne marche pas toujours. Mais ça a l'air bien, peut-être.
Ouais. En tout cas, voilà, c'est vraiment... C'est ça, quoi. C'est de la série feel good. C'est très marrant. C'est pas dark. Juste, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un truc où c'est juste rigolo et sympa et où t'aimes les personnages et où tu sens qu'il y a vachement de bienveillance et d'affection pour tous les personnages et pour le public qui regarde et tout. Il y a un côté un peu... c'est une série doudou, quoi. Moi, j'ai maté ça quand j'avais la grippe. Ça m'a remonté le moral de ouf. J'étais trop contente.
Yes. Jette un œil à Superstore, pour le coup, sur Netflix. Voilà. Petit micro-kiff, petit reco pour vous. Qui est une série qui se passe dans un centre commercial. Genre un truc comme Walmart, là, les magasins géants qu'ils ont aux États-Unis. Donc, c'est pas un centre commercial avec plein de boutiques. C'est un supermarché. C'est genre, ils sont à Auchan, quoi. Et du coup, y a plein de gens différents qui bossent là. Et c'est marrant. Je crois qu'il y a une bonne. J'avais regardé 3-4 saisons. Il y a une bonne diversité dans le cast aussi, même de physique, de morpho et tout, parce que c'est des gens qui bossent au supermarché, quoi. Il y a des gens très variés qui font ça. Et apparemment, ils ont très très bien abordé le Covid dedans. C'est pas... Il y a plein de séries qui ont décidé de pas parler du Covid et de pas faire d'arc Covid. Et apparemment, Superstore s'en est très bien sorti, donc j'ai hâte de reprendre pour regarder ça, et c'est très marrant.
Ah, je regarderai. Mais Abbott Elementary, c'est très cool. C'est... écrit par l'actrice principale de la série qui s'appelle Quinta Brunson. Et déjà juste ça, enfin moi j'arrêterai jamais d'être fascinée par ces meufs qui arrivent à écrire des séries, participer à la réalisation, les produire et jouer tenir dedans. Le rôle principal dedans. Là, ok meuf.
Hâte de voir Kalindi Rumpfel et Alex Martino faire ça dans leur propre série.
Mais oui, et on en parlera tout le temps dans LMK.
Oui.
Donc voilà, vraiment meuf trop cool qui est en plus, je crois, la première meuf noire à être nominée à 3 Emmy différents en même temps.
Yes,
et je crois qu'elle en a reçu 2 sur les.
Let's
sur les
go!
3.
Trop bien!
Et voilà, juste c'est marrant, c'est feel good, c'est sorti en 2021. Il y a plein de refs d'internet dedans, donc c'est cool aussi d'être dans les private jokes, même dans les séries américaines où t'es en mode yes, j'ai toutes les refs parce que j'ai Twitter.
Je suis trop smart parce que j'ai Twitter!
Et voilà, là, la saison 2 est en cours de sortie, je crois. Elle se trouve pas sur les plateformes, vous pouvez trouver la saison 1 sur Disney, la saison 2, ma foi, il faudra demander à votre cousin américain de vous envoyer le DVD, car nous n'encourageons pas.
Bien sûr,
pas.
You wouldn't download a car. Pardon, Mathis, je suis un peu criée dans les oreilles. Je t'ai vu tiquer, c'est le seul qui a un casque, bien. Donc...
Et voilà, c'est mon kiff, c'est trop
right,
bien. Regardez,
bah bien,
dites-moi des nouvelles.
Une petite série doudou pour la fin de l'hiver, c'est toujours appréciable.
Mathis, je sais pas, parce que je crois que la saison 2, elle est pas finie encore. Donc
je crois que c'est renouvelé pour
si
une troisième. La moitié des infos, mais il me semble que Abbott Elementary, c'est bien parti pour pas se faire annuler la gueule tout de suite, ce qui est toujours un peu frustrant. Donc il y a moyen que ça revienne l'année prochaine.
Trop hâte.
Mathis,
oui.
C'est quoi ton kiff?
Mon kiff, il est compliqué parce qu'il emprunte à plein de choses.
C'est toi qui as choisi. Hein.
Oui, hein. Bon. Je suis assez heureux dans ma vie en ce moment.
Bravo.
Parce que j'ai un équilibre. Bah, bravo, ça va.
Bah non, mais bravo, sincèrement. C'est cool d'être heureux.
Ouais, non, je suis assez content parce que genre, j'arrive à trouver un équilibre entre plein de choses que j'aime, c'est-à-dire énormément de théâtre, un peu de ciné, pas mal de sport et voir des gens, voir des amis, etc.
Et du coup, et Ruby.
Genre, le. Bah, Ruby est pas beaucoup présente en ce moment. Je suis désolée, ma petite Ruby.
Tu l'as pas compté dans les choses que t'aimes.
Bah, le problème, c'est que Ruby, moi, je l'aime très fort, mais ça reste avoir un chien. Donc, ça reste. Ça veut dire, il faut repasser par chez toi pour pas essayer
de. Raison pour laquelle j'ai pas de chien, et c'est la contrainte.
C'est la contrainte. Mais non, ma petite Ruby, je l'aime très fort, forcément. Il faut réenvisager les choses autrement, mais elle me rend très heureux par ailleurs. Mais du coup, voilà, typiquement, je me suis dit hier soir, je mène la vie que j'ai envie de mener et la vie que j'ai envie de mener depuis longtemps. Parce que du coup, j'ai commencé ma soirée. Ça va être, tu vas voir, Anthony, un kiff qui va faire écho à plein de trucs que t'as dit, à la fois dans cet épisode et à la fois dans d'autres. Du coup, des fois, je souris en mode, s'il savait. Maintenant, tu vas savoir, du coup.
Machiavélique.
Machiavélique, même pas. Typiquement, ma soirée, elle a commencé par Tom à la ferme, dont t'avais parlé dans Laisse-moi kiffer. Et je t'avais dit, ah, mais regarde, c'est repris en programmation. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une autre mise en scène. Donc, c'est une mise en scène de Olivier Sanquet, cette fois, qui est donc un texte de Michel-Marc Bouchard, dont Anthony avait parlé dans un live Twitch. LMK, si je me souviens bien. Tu te souviens de ça ?
Oui, il était sorti après les dernières dates.
Exactement, exactement, c'est ça, il y avait un bail de dates.
Je voulais le faire à tout prix dans LMK, afin que les gens puissent encore aller le voir, et puis les épisodes ont été annulés les uns après les autres.
Bon, ouais, sorry, c'était peut-être ma faute.
Il y a eu, ouais, on a eu des problèmes de calendrier un temps, et du coup c'était un peu frustrant, et du coup bah, tu m'avais grave... re-hypé sur ce... Bah, justement, moi, j'avais vu le film de Dolan et j'avais été complètement hypé par l'idée de le voir en théâtre. Et en effet, le voir sur scène, du coup, le rapport à l'intrigue est complètement différent. Et je trouve que tu laisses beaucoup plus la place à chaque personnage. T'es moins obnubilé par le duo principal et même par Dolan qui prend finalement beaucoup de place.
Tout.
Un petit peu, voilà. Et là, je trouvais que sur scène, pour le coup, t'as la possibilité de te focaliser sur un personnage. Et puis, il y a le fait aussi au théâtre. Assez souvent, tu vois pas forcément tous les personnages tout le temps sur scène, mais beaucoup plus souvent qu'au cinéma. Il y a moins ce truc de cadrage. Ce qui fait que, du coup, tu peux voir toi-même le hors-champ. C'est toi-même qui décides de faire la focale sur tel ou tel détail. Et du coup, ça m'a
beaucoup
intéressé.
J'aime bien
regarder
au théâtre les acteurs quand c'est pas eux qui jouent. Tu vois, quand c'est pas leur moment, j'aime trop regarder ce qu'ils font. Mais comme au ciné, je regarde les figurants dans le fond, tu vois.
Ouais.
Pour voir un peu, genre, comment ils créent ce truc. Et c'est toujours des trucs de. Tu vois, les gens faire des mouvements répétitifs pour juste donner l'idée de quelqu'un boire un café dans le fond. Du coup, t'as juste une personne comme un automate qui boit son café plein de fois, mais des fois, il y a des trucs marrants. Et j'aime trop au théâtre où, enfin, j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, je regarde toujours, genre, quand il y a plusieurs acteurs sur scène et qu'il y en a un, c'est son moment, et les autres sont juste là, je suis là, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps, du coup?
Bah, c'est ce qui fait que finalement, une performance va être soulignée, et puis en fait, tu peux jamais comprendre un personnage qu'autrement qu'en relation aux autres. À la fois par ce qu'il va dire, mais aussi parce que les autres vont faire ressentir. Enfin, si ton personnage il est censé faire peur, bah, si les personnages autour ont pas peur, ça marche pas, tu vois. Et là, typiquement, il y a vraiment un truc d'osmose qui marche vraiment bien, et surtout que c'est un truc avec des relations, enfin, c'est une pièce avec des relations quand même assez complexes entre les personnages et assez ambiguës. Et je trouve qu'ils vont bien chercher ça dans le jeu, et c'est assez chouette, et c'est assez minimaliste, parce que du coup, donc c'est au Théâtre des Déchargeurs, qui est un tout petit théâtre à côté de Châtelet, qu'il faut vraiment, vraiment capter. Genre, c'est au fond d'une cour et tout, c'est trop drôle, et c'est vraiment un truc de 50 places, tu vois. Et bah évidemment c'est assez minimaliste comme mise en scène, parce qu'en fait tu pourrais pas faire venir un chapiteau non plus là-dedans et des tigres, ce qui est dommage, on manque de tigres dans le théâtre. et du coup voilà, je trouvais que c'était un rapport assez brut au texte et j'étais content de le redécouvrir comme ça et en plus bien joué. Et en fait j'ai enchaîné ça juste après en allant à pied, en plus à un endroit qui était juste à côté, quand ça arrive c'est quand même chouette, à une soirée à un endroit qui s'appelle Le Caverne, et c'était pour une soirée qui s'appelle La Boîte à Bijoux. Tu connais peut-être, Anthony, je sais pas.
Il y avait Ruby and the Nails.
Il y avait Ruby and the Nails qui présente. Et La Boîte à Bijoux, c'est des soirées drag. De quoi?
Il y a une soirée de cosplay.
Okay. Tu racontes ça après.
On l'aura en off.
T'es obligé.
Désolé, les LM.
Désolé. Et donc voilà, bah, ça a prolongé ma soirée et j'étais genre juste trop content. Et en plus, j'ai pu revoir, donc j'ai pu découvrir des gens sur scène. Ruby on the Nail, je la connaissais de nom, mais je l'avais jamais vue performer en tant que host. Parce que du coup, quand tu fais du drag, tu peux être host dans le sens où bah, tu vas faire l'animation, tu coordonnes un peu tout le bail. Tu peux faire des performances plus de type lip-sync, mais il y a plein de choses qui sont possibles aussi. Il y avait une drag queen, alors japonaise de ce que j'ai compris, qui s'appelait Madame Wasabi, qui elle, pour le coup, était chanteur d'opéra. Ou chanteuse d'opéra, je sais pas comment la personne de ce genre. Et du coup, Tuna Mess aussi, que je connaissais pas forcément, qui était dans des performances plus émotionnelles. Et il y avait Julie Furton, dont le drag king, c'est le père Eustache. Et Julie Furton, moi, je l'ai vue et je me suis dit... Bon, faut savoir un truc, dans ma vie, je suis très physionomiste. Ça me sert pas à grand-chose en général, mais là, ça m'a servi parce que, genre, j'ai regardé la personne, je fais... Je connais cette personne, je ne sais pas d'où. Et en fait, en deux secondes, je
l'ai retrouvé. Et tu l'avais vu hors drag, du coup ?
Je l'avais vu hors drag. Donc là, en plus, je le
vois. Ah oui, c'est follow.
Ouais, ouais. Donc je vois
quand
le père Eustache.
Quand je regarde une nouvelle saison de RuPaul's Drag Race, il y a deux épisodes où les gens hors drag et les gens en drag, je les reconnais pas. Je suis là, il me faut un peu plus d'épisodes pour arriver. Je suis l'inverse de toi, je suis la personne la moins physionomiste du monde. Et donc oui, je suis là, okay. Attends, la personne qui est au confessionnal, c'est laquelle sur scène ? Du coup, c'est l'astronaute sexy ou c'est la barre de chocolat vivante ? Je ne sais plus. C'est super RuPaul's Drag Race.
C'était
regardez RuPaul's
Drag
Race.
C'est bien résumé en ce dilemme. Et là, pour le coup, c'était un peu plus minimaliste comme forme de drague, parce que du coup, donc le personnage de Julie, c'est un prêtre, le père Eustache, où en gros...
Ah ouais, j'étais sur un campagnard avec sa fourche.
Pas du tout.
C'est le père Eustache de la ferme du bout de la route, mais non.
Il y a un peu ce truc de... Il est bien brave, tu vois, où il arrive avec son petit ukulélé et il nous fait, bon, vous savez que...
Non, il avait pas d'ukulélé dans ma tête non plus.
Bon,
en plus, une fourche.
Oui. Là, pas là. Bah, là, il y avait un ukulélé, et du coup, il arrive en mode, bon, bah, vous savez que le pape est mort, et du coup, les gens sont en mode, oui, et il fait, bah, j'ai écrit une chanson, ça s'appelle Chez. Ok, on va passer un bon moment.
Cette vanne est déjà incroyable.
Et vraiment, genre, j'ai ri du début à la fin, et je suis pas forcément très bon public sur l'humour. Enfin, c'est assez terrible. Il y a des contextes où je rigole vachement. Dans LMK, je rigole vachement. Mais sur des trucs où je suis censé rire. Ça,
ouais.
Je sais pas, ça marche moins tout d'un coup.
T'es difficile en comédie, quoi.
Moi, je suis chiant, en fait. Et, et là, pour le coup, j'ai vraiment, vraiment pris du plaisir à regarder ça. Et en fait, toute la soirée, que ce soit Tom à la ferme ou la soirée, j'ai ressenti toutes les émotions qu'on essaie de m'amener. Et c'est chouette quand on essaie de t'amener quelque part et que tu sens que tu passes bien les petites
ça
cases comme il fallait. Yes, je fais bien le slalom. Et j'ai vraiment ressenti ça tout le long. Et je suis reparti chez moi, bon, déjà bourré. Et ensuite, un sourire aux lèvres, peut-être parce que j'étais bourré également. En rentrant en plus à pied, en faisant ce truc de genre tu rentres avec quelqu'un et t'as pas envie que la conversation se termine, et du coup on a remonté toute la ligne 7 comme ça, ce qui m'éloignait de chez moi finalement, ce qui était peut-être pas le meilleur bail, mais peu importe. Au
mais
moins quelqu'un n'avait
it.
Pas vomi dans la rame, et ça, oui. Ça c'est chouette pour oui. Une fin de soirée.
Car dans la 7, ça arrive absolument tout le temps. À chaque seconde,
7,
quelqu'un vomit dans la 7.
Cette anecdote est vraie. Oui.
C'est tellement vrai. Donc voilà, je suis très content de la soirée et ça me permet de faire un petit shout-out à tous ces gens talentueux et talentueuses. Et du coup, Julie Furton, pour finir là-dessus, je l'avais vue dans King Max, dont je vous avais parlé ici, justement, dans LMK. Je vous avais parlé de deux courts-métrages que j'avais vus au Chéri Chéri. Il y avait Les Démons de Dorothy, où d'ailleurs, justement, récemment, j'ai été à la mutinerie et je crois que la personne qui bossait au bar jouait dans Les Démons de Dorothy. Je suis pas.
La mutinerie qui est un bar lesbien à Paris.
Voilà.
Le texte.
Exactement, merci Mimi. Et les, pour le coup, King Max, c'était un court-métrage dont je vous avais parlé, qui a été pas mal bah, primé, mine de rien. Je crois que c'est passé à Cannes, etc. Enfin, il y a eu tout un succès autour et une vie, ce qui est rare pour un court-métrage qui peut facilement tomber dans l'oubli, malheureusement. Là, pour le coup, ça a été vraiment bien visible et c'est très chouette. Donc voilà, si vous avez l'opportunité de regarder King Max, bah, vous verrez que le rôle de Maximilienne est assuré par Julie Furton, qui est comédienne, mais qui du coup fait du drag king, dirige une chorale queer qui s'appelle la Queerale, je crois, justement. Donc voilà.
Si tu fais une chorale queer et que tu l'appelles pas la queerale, à quoi bon ? Tu vois,
genre, exactement.
Tu vois l'occasion, tu l'as saisie.
Même si j'aime pas trop les jeux de mots, j'ai fait un effort. Donc voilà, très belle soirée, plein de gens talentueux d'un coup, très content d'enchaîner plein de choses parce que c'est ça aussi mon truc, c'est que moi j'aime pas sacrifier une soirée pour un truc plutôt qu'un autre. Là j'ai fait plein de trucs, yes ! Donc voilà, le bonheur, la joie, la vie. Il faut que je dorme nonobstant.
Trop ouais. Bien. Bah écoutez, c'est un épisode compliqué pour moi parce que vous m'avez environ tous les trois fait changer de kiff au fur et à mesure. C'est pour ça que je prenais mon téléphone, c'est pas parce que je suis mal poli. J'étais là, ouais, c'est une bonne idée. Mais parce que je suis arrivée, j'étais là. Il y a plein de trucs que je kiffe dans ma vie, c'est pas le problème, mais j'avais pas l'inspi de ah ouais, ça c'est mon kiff en ce moment, quoi. Et je voulais pas refaire un truc de nerd parce que j'ai parlé de Vampire Survivors déjà la semaine dernière. J'ai réussi à contaminer des gens. Il y a des gens qui m'ont envoyé des DM en me disant je te remercie pas avec Vampire Survivors sur leur téléphone. De rien la mif, bon voyage dans le pays de la drogue dure. Du coup je me suis installée sur un kiff, c'est bon, j'ai décidé, mais j'ai noté les autres que vous m'avez inspiré pour vous en parler plus tard. Je pense que mon kiff, c'est une petite étape de la vie, c'est de mieux gérer la tease, l'alcool.
Oui. Oh.
Je vous dis ça, je suis actuellement en légère gueule de bois. Ok, on va pas se mentir, c'est jeudi. Mais ce matin, je me suis réveillée en gueule de bois, donc avec la barre au crâne et tout, et j'étais là... Oh non, c'est nul, ça faisait longtemps. Et je me suis dit, c'est vrai que ça faisait longtemps. Alors que on se parle actuellement, on est le...
4 janvier, 5 janvier.
Le 5 janvier. Donc, on sort de réveillon du Nouvel An, réveillon de Noël, etc. Et ça fait quand même longtemps que j'ai pas eu la gueule de bois. Et je suis contente parce que il y a, je pense, jusqu'à il y a 4-5 ans, j'avais un rapport à... J'avais une consommation d'alcool qui était quand même beaucoup plus intense et je pense qui était aussi, entre guillemets, pas pour les bonnes raisons. C'était pas juste festif ou parce que je faisais plein de soirées ou quoi. C'était aussi un vrai truc de... Bah, guess what, je suis anxieuse comme personne. J'avais un job très prenant, la pression de l'âge adulte, la vie parisienne, tout ça. Donc bon, quand l'alcool devient une façon de gérer le quotidien, c'est pas hyper sain. On avait fait beaucoup de boulot quoi, à l'époque où je bossais sur Mademoiselle sur l'alcoolisme chez les femmes parce qu'il est assez méconnu. Quand on pense à une personne alcoolique, on a un peu l'image d'un mec de 50 ans au comptoir avec une bouteille de rouge à environ 7h du matin. Mais en fait, il y a plein d'alcoolismes différents déjà, il y a plein de rapports à l'alcool problématiques différents. Et chez les femmes, ça se voit un peu moins aussi. Et puis, il y a un peu un truc de... dans mon milieu de, alors c'est pas que c'est cool d'être bourré, mais être une meuf qui boit des pintes, en tout cas personne va te le reprocher quoi, personne, je suis pas entourée de gens qui me disent ah tu bois comme un homme, c'est pas hyper féminin et tout machin. Je suis plutôt entourée de gens bon vivants qui aiment bien boire des coups aussi, et puis on est dans un pays qui aime bien boire des coups. Là on est en plein dry January pour une partie du monde, pas pour moi car j'ai la gueule de bois, voilà, vous avez suivi, parce que j'ai pas envie de me priver d'alcool tout un mois. Mais je me rends compte que j'arrive, et en fait c'est ce truc où ça s'est installé tellement petit à petit que tu t'en rends pas compte, et d'un coup tu te lèves et tu fais ah ouais, j'arrive à faire ce truc qui était un vrai problème pour moi il y a X temps. Et en fait c'est venu, alors pas tout seul, because de la thérapie, because plein de choses, mais c'est venu sans que je m'en rende compte quoi. C'est que j'étais pendant longtemps cette meuf qui est pas capable de boire juste un verre quoi, ou de rentrer avant d'être torchée. Donc c'était une pente glissante assez rapide, ou alors pour des questions de bon, si on a 2 heures au bar avant d'aller au cinéma, bon bah oui, je vais pas m'éclater la gueule en 2 heures quoi. Mais je vais pas boire une pinte. Généralement, je vais boire 2 pintes, voire 3 pintes. Du coup, souvent, bah ça, 3 pintes, ça commence à être, c'est pas hyper frais le lendemain. Tu rentres pas hyper frais. Du coup, bah quand t'as un boulot en plus, quoi, j'ai un boulot à horaire fixe et tout, c'est un peu chiant. Bref. Donc, et je savais que j'étais là. Putain, j'aimerais bien être de ces gens pour qui c'est vraiment pas compliqué de boire un verre et c'est tout. Et maintenant je le suis, incroyable. Genre des fois avec mon gars, on s'ouvre une petite bouteille de vin et on boit un verre chacun. Et on dit bon, on va ranger la bouteille. Je suis là, mais on est qui finalement, incroyable. Et au Nouvel An, alors j'étais bourrée quand même, mais j'étais pas. Donc j'ai fait mon Nouvel An dans une soirée de mon pote Younes que j'embrasse, qui était passé chez Mademoiselle il y a des années, il était développeur et il avait loué une salle qui est un peu une salle. C'est un peu dur à dire. En gros, il y avait un bar. Il y a un espace nu pour le coup, mais où du coup tout le monde pouvait circuler. Donc il y avait des employés du bar qui... Non, un espace nu où juste on pouvait se tenir debout et parler et mettre des tables avec de la bouffe et tout. Donc c'était un peu un bar, mais un peu aussi un peu comme une mini salle de concert, un peu bizarre. Mais très cool. Et du coup, il y avait de la bière pression. Et puis après, chacun amenait ce qu'il veut. Et c'était, en fait, c'était comme une soirée à part, mais dans un lieu qui a un bar. Donc le meilleur des deux mondes. Vous pouvez fumer des clopes à l'intérieur et tout. Donc c'était sympa. Il y avait beaucoup d'alcool. On est arrivé déjà, il y avait une table avec genre tous les alcools forts et des bons trucs, genre du rhum Dom Papa et tout. Pas le vieux Jack Daniels pas cher que t'amènes en soirée avec du coca tiède, quoi. On a 30 ans. On commence à kiffer la vie. Donc même au Nouvel An, on boit des trucs sympas. Et en fait, j'ai bu 3 pintes et je suis rentrée à 2h. J'ai laissé mon mec là-bas alors que c'était mon plus un. Mais en fait, à chaque fois, il s'entend trop bien avec tout le monde. Et lui, il est plus jeune et plus fêtard que moi, donc moi vraiment, je suis trop vieille pour rester en soirée jusqu'à 4 du mat, quoi. Et lui, il est rentré, je crois, à 6h du matin. Je sais pas, je dormais parce que moi, je suis rentrée à 2h30. Et vraiment, à 2h, j'étais là. En fait, je pourrais reprendre un verre, je pourrais rester plus tard et tout, mais je pense pas que je vais. Là, on arrive au moment de la soirée où ça va soit continuer comme ça, soit je vais être de plus en plus bourré, de plus en plus pas bien, et en plus, j'aurais oublié une partie de la soirée. Enfin, je vais pas profiter plus. Donc, vas-y, je me rentre et je bois pas un verre de plus, qui en plus est un peu le verre de trop, je pense. Du coup, je suis rentrée en métro, ce que je fais jamais au Nouvel An, parce que genre jamais j'ai envie d'être dehors dans le métro parisien au Nouvel An, et aussi parce que généralement il est 6 du mat et je suis extrêmement bourrée, et du coup je prends Uber. Enfin bref, et voilà, c'était plein de petites prises de conscience à l'occasion des fêtes et du dry January. J'ai des proches qui le font, donc ça me permet aussi de réfléchir à mon rapport à l'alcool, qui me fait me dire, ok, ça s'est apaisé, et maintenant, l'alcool c'est un plaisir, alors... à surveiller, etc. Hein. Si vous pensez que vous avez, vous chez vous, les LM Curl, les LM Crado, que vous avez une consommation d'alcool, que vous aimeriez au moins interroger ou vérifier que tout va bien, parlez-en à votre médecin, parlez-en à des assos, enfin, il y a plein de ressources. Je prétends pas être, être médecin, bien évidemment. Et j'ai pas activement dit à ma psy il y a 2 ans, ok, on va bosser sur mon rapport à l'alcool, mais ça, c'est, je pense que quand tu t'alignes, plus tu t'alignes dans ta vie, moins t'as de besoin, entre guillemets, de substances pour tenir le coup. Et du coup, je suis contente, parce que j'aime quand même bien boire des petits coups, je suis contente que ça soit, ce soit un truc sur lequel je suis en contrôle, et pas un truc où trop vite je dérape et je m'en veux après, quoi. Donc voilà, on est ravis. 2023, l'année où on se bourre la gueule que quand on choisit de le faire. It's good. Et après, on essaiera de penser à envoyer des messages boubou à LMK.
Un jour.
En vrai.
Attends, nous, on a le droit de le faire ?
Bah ouais, j'ai déjà fait, moi.
J'ai déjà fait depuis la nif de ma meilleure pote Soraya. J'étais là, coucou LMK, je suis aux 30 ans de Soraya. Et j'ai, dans ma tête, j'ai timé. Genre, ok, là, c'est le bon moment pour que je fasse l'audio. Parce qu'après, on ouvre la vodka et il faut pas que je fasse un audio après, au travail. Parce que je travaille encore là. Bah, je suis quand même la chef de la personne qui va l'écouter. Donc, faut pas que je sois trop, trop torché, si tu vois. Mais j'étais. J'étais pompette, quoi.
Okay.
J'avais fait un beer pong. Voilà. Je suis pas forte au beer pong, mais je suis forte pour boire les verres du beer pong.
Ça me dégoûte un peu, le beer pong.
Oui, c'est pas fou. Bah, c'était en été, donc c'était bien parce qu'on pouvait sauter dans la piscine après, mais oui, ça colle un peu, quoi. T'as un peu de la bière qui t'éclabousse. Qui t'éclabousse,
ouais,
t'as des
de
balles
balle
couvertes
dedans.
De bière qui roulent partout.
T'as dit qui t'éclabousse.
Qui t'éclabousse, oh, incroyable. J'ai pas fait exprès, mais je le garde.
C'est mignon.
J'ai bégayé. C'est mieux en extérieur, dans le sud de la France, sur un grand balcon avec du carrelage que tu peux laver à grande eau après et que t'as une piscine pas loin pour quand tu colles.
Donc, faut pas glisser sur le carrelage, quoi.
Pas glisser sur le carrelage, tout à fait.
Sinon, tu souffres. Mais non, c'est trop bien comme, comme kiff, Mimi. Je trouve ça trop intéressant, ce truc de se dire que dans un pays où culturellement on est amené à consommer de l'alcool de manière régulière et presque automatique. En fait,
et même
peux...
poussé, hein. Là, il y a plein de gens qui font le dry January qui témoignent sur les réseaux de leurs potes, soit les invitent plus parce qu'ils boivent pas, soit vraiment insistent pour qu'ils boivent un verre, quoi.
Bah ouais,
ne faites
en
pas
fait,
ça.
Moi j'ai parfois l'impression que le discours de faut arrêter avec la pression sociale et tout, des gens à boire, machin, c'est quelque chose qui est entré un petit peu dans la norme. Et en fait, quand je réfléchis, je me dis, mais alors certes, j'ai de plus en plus de gens autour de moi qui font le choix de pas boire d'alcool et qui l'assument, tu vois, qui disent, qui viennent en soirée et qui disent, bah moi c'est soft ce soir, j'ai pas envie de teaser. Et en même temps, à chaque fois, t'as au moins une ou deux personnes qui en fait leur servent des verres en mode non mais c'est bon, prends-en, tu vois, et
les gens, non
mais en fait tu veux quoi, enfin
qui posent des questions, déjà c'est déjà tellement déplacé, enfin ça peut être un sujet tellement sensible pour plein de gens, pourquoi, enfin je sais pas pourquoi ta mère, genre
c'est
genre,
ça.
Bah ouais,
moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps dans un bar pas loin du taf en plus, où j'ai bu un verre avec un pote, je sais pas, on avait pas envie de boire d'alcool, on était là, vas-y, Perrier chocolat chaud tranquille et tout, et le serveur et le barman se sont foutus de notre gueule, mais vraiment genre on était dans, sur une table pas très loin du bar, ils étaient là, hey, on a trouvé les gens les moins fun de Paris, la mère fouettard, je sais pas à quoi, j'étais, mais en fait, niquez-vous, mon Paris, il coûte 18 euros. Fin...
Oui, c'est même pas un truc de. Ça leur rend pas service financièrement, parce qu'au contraire, oui. Bah, souvent en happy hour et tout, les softs sont plus chers que la bière, en tout cas que la bière de base ou que le verre de vin de base, tu vois.
De ouf.
Donc en vrai, ton Perrier, il est rentable pour
et
eux.
Et puis surtout, c'était hyper désagréable, enfin, comment ça,
oui,
tu te fous de ma gueule,
bah, oui.
Parce qu'un mercredi à 21h, j'ai envie de boire de l'eau, enfin, je sais pas, check ta life, tu vois. Bref. Et bref, donc on est quand même dans un contexte où on nous pousse beaucoup, et je sais que moi j'ai jamais eu de gros questionnements vis-à-vis de ma consommation d'alcool, au sens où bah je sais pas, j'ai tendance à faire des pauses de à peu près tout régulièrement dans ma vie, tu vois, donc je suis en mode ah tiens là des fois j'arrête de boire pendant 3 semaines et c'est super. Par contre, j'ai senti que y a eu un moment où je me suis rendu compte qu'on pouvait conscientiser sa consommation, genre qu'en fait t'étais pas obligé de compulsivement boire 3 pintes dès que t'allais boire un coup, de reprendre un verre quand tes potes reboivent un verre et tout, et que c'était aussi hyper possible de dire bah là je sais pas, ok c'est la happy hour mais j'ai envie d'un demi, en fait j'ai
oui.
pas envie d'avoir la
même
barre au crâne
si c'est pas financièrement rentable parce que la pinte elle est au même prix, bah en fait j'ai pas envie de boire une pinte, quoi.
Là,
mais ça c'est un ça s'apprend, quoi.
Et
vraiment.
Si j'ai re-envie d'un demi après, même si financièrement c'est vraiment con, et ben en fait je me serais d'abord checké en mode ok, après mon premier demi, si j'en veux un deuxième j'en reprends, mais je suis pas obligée de prendre une pinte directe et tout. Et je trouve que c'est trop cool toute cette réflexion autour du Dry January et tout, de se dire ben en fait il y a plein de moyens de s'interroger sur sa consommation d'alcool, de conscientiser les petits
ouais,
gestes,
de faire une pause,
verres,
de checker aussi quand est-ce que ça nous manque, dans quel contexte, pourquoi ça, est-ce que c'est juste bah en fait je suis avec mes amis, on passe un bon moment et j'aimerais bien avoir cette petite désinhibition qui va avec, ou est-ce que c'est bah je me rends compte que j'en ai envie quand je sors d'une réunion hyper stressante et tout, ou du coup bah il y a des moyens de gérer votre stress autrement et de garder si vous le souhaitez l'alcool en plutôt en plaisir maîtrisé quoi.
Ouais, et tu vois, moi, c'est à ça que je pensais. C'est pour ça que j'avais pris la parole à la base et j'ai oublié la chute.
C'est pas grave.
Ce que je me suis dit quand j'ai commencé à conscientiser tous ces trucs-là, c'est que je me suis rendu compte que les seuls moments où j'avais genre un trigger de « Ah là, j'ai envie de boire de l'alcool » dans un contexte qui était pas en mode « Ah tiens, là, tu fais la fête et c'est sympa », c'était quand j'étais dans des lieux de genre networking ou je sais pas quoi, où j'étais en mode full anxiété sociale.
Ah ouais, et
où en devais
plus,
taper
c'est
la discute
pas
à des
bon
gens que je connaissais
pour
pas.
Se brûler la gueule parce que t'es là pour le taf aussi, tu
ouais.
vois.
Mais du coup, j'étais même pas dans la recherche de genre se brûler la gueule et tout. J'étais juste en mode, ah bah là, je sais que si je bois deux verres, le small talk de l'enfer là, dans lequel je dis n'importe quoi et je finis par dire mycose pour aucune raison et que je panique, et bah en fait, il se passera mieux. T'étais là la dernière fois que ça m'est arrivé, on t'a
dit. T'as dit mycose ?
Oui. Je sais pas pourquoi.
Oui, don't ask.
C'était mais, horrible.
Franchement, je commence à penser que j'ai genre un level, c'est quoi, c'est d'éthanol dans le sang, genre trop élevé de base, parce que moi, vraiment,
ça expliquerait
c'est
les
moi dans la vraie vie tout le temps. Genre, moi, mon cerveau, il a un filtre, mais un filtre, oh là là, un filtre a posteriori qui te fait dire, ah, fallait pas dire ça.
Ah,
du coup,
fallait t'arrêter.
C'est trop tard.
Y a du mot,
c'est sorti,
c'est
mais c'était vraiment con. Voilà. Bonne soirée. Enfin, bonne nuit. Enfin, non, d'ailleurs,
forme
nuit,
d'incontinence.
Non.
Mais...
ouais. Ça m'arrive aussi, mais pour la passive agressivité.
Ah bon?
Ça, c'était passif-agressif.
On va montrer tout avec une flèche. En mode...
Est-ce qu'on met fin à cet épisode?
Il est
parce
temps,
qu'il est 18h20 et que maintenant qu'on a
bah,
parlé
oui,
de
oui.
gérer sa consommation d'alcool, on va peut-être aller boire une pinte en gueule de bois. Oui, car
on
c'est toujours mal bien.
Allez hop.
C'était cool. Merci
c'était
beaucoup
trop bien.
À tous et toutes d'avoir été là. On se retrouve jeudi prochain, bien sûr, pour un nouveau Laisse-moi kiffer qui sera du coup le 220. Je le sais maintenant.
Et oui.
Tout
et...
sera dans les notes du podcast puisque Mathis est formidable.
Mathis est formidable.
J'ai envie
bien
de hurler.
Sûr.
Mais vraiment, attendez, mais en vrai, là, c'est le premier épisode de l'année. On n'a pas dit.
Non,
bonne année.
C'est le deuxième.
Mes meilleurs vœux.
Bonne année.
De santé mentale et physique, d'épanouissement perso et pro.
C'est pour ça que t'envoies
et
tes ex.
Oui, non, bah,
on dirait une chaîne où à la fin c'est indiqué.
Plus un mot-clé un peu spécifique, genre
bien
c'est un
sûr.
Message personnel.
Tu bien
vois.
Sûr. Ah,
tu mets pas comme emoji.
Ça dépend si j'ai couché avec ou pas.
Ok.
Oh.
Incroyable.
Ok.
Ah, attends,
voilà.
J'ai tellement j'ai pas d'ex avec qui j'ai pas couché. Ok. À la semaine prochaine. Des bisous. Prenez soin de vous. Envoyez des messages à vos crushs. Ça n'a jamais
oh,
tué
oui.
personne.
Et puis à nous.
Et
hein.
À nous aussi.
Allez,
love you.
Allez-y.
Des bisous. Les peut-être c'est nous vos crushs. Des bisous
non.
les lèvres cœur. À jeudi.
Ah, des bisous.
Mais j'ai même pas le temps de dire bisous.
Ah.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.